Bonjour à tous, je suis Guillaume Poggiaspala et je suis très heureux de vous retrouver en ce 6 février de l'an de grâce 2019 pour un 116e épisode de Tech Café. Et je suis encore une fois accompagné de mon compère Tom. Comment ça va, Tom ?
Ça va bien. Après une sueur froide, ça va bien. Oui, je remercie les dieux de la technologie.
Écoute, je pense que le saint patron de Skype nous a entendu, il a entendu nos prières, parce que c'est vrai qu'on a eu des petits problèmes techniques et ça, l'épisode a failli être un épisode solo. Ça aurait été quand même beaucoup plus triste, ça aurait vraiment été dommage.
Et oui,
parce que cette fois encore, hein, pas de Guillaume Vendée. Alors, il serait toujours selon la même source, hein, parti à la recherche du diamant du Nil. Bon, il devrait être rentré la semaine prochaine, et heureusement, parce que cette série de films est déjà terminée, hein, c'est moi aussi. Hein. Pas avoir choisi une série avec seulement deux épisodes. Alors, s'il revient bredouille, parce que c'est vrai que c'est un long voyage, le Nil, ça fait quand même 6700 km, petite rivière, je pense que ça lui réchaufferait le cœur de voir une contribution sur Patreon.
Oh oui.
Parce que figurez-vous que ce podcast est soutenu par le financement participatif de ses généreux auditeurs, et que c'est ça qui lui vaut sa totale indépendance, hein, en tout cas jusqu'à ce que Spotify nous rachète. Voilà. Ou pas, on verra, on en reparlera un petit peu de tout ça. Donc, si vous aimez Tech Café, allez sur le site web techcafé.fr, hein, vous retrouverez le doc de l'émission, vous retrouverez aussi toutes les sources des sujets qu'on aborde ici. C'est là que vous pouvez laisser des commentaires pour les épisodes, c'est là que vous serez redirigé via techcafé.fr/go, qui va automatiquement, hein, selon votre plateforme, vous orienter vers un lecteur de podcast qui va bien. Donc, parce que si vous êtes nouveau un petit peu dans le monde du podcasting, c'est vrai que ça peut être un petit peu confus au premier abord. Donc c'est là aussi que vous aurez les liens vers le groupe Telegram pour interagir avec les créateurs et les auditeurs du podcast. C'est là que vous pourrez trouver le lien vers le Patreon de Tech Café d'ailleurs aussi, mais c'est pas là, malheureusement, hein, que vous pourrez nous laisser des étoiles pour faire monter notre notoriété et notre satisfaction personnelle aussi. Évidemment, c'est plutôt sur iTunes. Je crois que j'ai rien oublié.
Non, ça a l'air bien.
Bon, donc ce soir, quel programme ? Écoute, on va commencer par une rubrique que j'ai intitulée de manière assez sibylline, SIGINT. Parce que c'est l'abréviation en fait de Signal Intelligence, jargon des services de renseignement pour l'interception des signaux et l'extraction d'informations quoi, de ces signaux. Et donc on va parler de mouchards, d'espionnage et plus largement d'ailleurs de collecte d'informations, sous le prisme d'Apple d'ailleurs. Voilà, Apple qui a eu des pépins hein, parce qu'elle s'est faite noyauter, ce qui est quand même un comble pour Apple. Des certificats des développeurs révoqués, l'espionnage industriel, on traitera aussi un petit peu de l'actualité d'Apple et on finira avec quelques news sur la compromission des chaînes industrielles, un petit sujet qui est revenu pas mal l'an dernier.
Ouais.
On enchaînera avec une section de bilan, car la roue tourne, hein, tout a une fin, fin de service, fin de l'âge d'or, fin de l'innocence. Mais bon, voilà, toutes ces fins marquent aussi le début de plein d'autres choses. Et on enchaînera avec une section en bref qui parlera de jeux vidéo, entre autres, et un bonus qui m'a totalement traumatisé. Bon, j'en dis pas plus. On verra, je tease. Si tu es prêt, Tom,
c'est parti,
on peut continuer sans autre forme de procès. Alors, on commence par un anniversaire.
Et oui.
Presque pas en retard. Celui de Facebook, qui a désormais 15 ans, mais qui manque toujours pas mal de maturité. N'est-ce pas ?
Ah, exactement, ça m'a fait rigoler. Est-ce que tu l'as vu passer, cette petite vidéo ?
La vidéo, non. Je sais que Facebook est né en février, effectivement, d'il y a 15 ans, quoi, mais j'en sais pas plus.
Voilà, donc il y a le New York Times, une section en tout cas du New York Times, le New York Times Opinion, qui a envoyé, comme le fait si bien Facebook parfois, un petit reminder, un petit souvenir en leur disant « Oh, déjà 15 ans !» Et c'est magnifique parce que c'est à peu presque 2 minutes de pur tacle sur les fuites, les manipulations, la montée de la haine sur les réseaux sociaux et spécialement sur Facebook sans aucune réaction de Mark et de ses grands amis. Donc j'ai trouvé ça assez formidable, c'est une petite vidéo à voir, ça a fait ma journée, vraiment, c'est très très bien fait en plus. Bravo au New York Times pour avoir osé sortir ça, parce que c'est vraiment pas piqué des hannetons.
J'irai voir ça, ça a l'air vraiment rigolo, effectivement. En parlant de ça, un petit follow-up rapide, hein, Snopes, c'est un site indépendant de fact-checking, on l'avait évoqué donc dans un autre épisode, et c'est désormais acté, hein, eux-mêmes d'ailleurs avaient évoqué leur volonté d'arrêter de collaborer avec Facebook. Apparemment, c'est trop difficile hein, pour la petite boîte de 16 employés, le jeune avait les plus la chandelle. Ils ont quand même tenu 2 bonnes années, mais bon, la lourdeur, la lenteur de la procédure, tout comme d'ailleurs l'ampleur de la chasse aux infox sur Facebook, ils les ont poussés à jeter l'éponge. Faut dire que c'est un job ingrat quand même, hein. t'es en première ligne, t'es en face des trolls, et puis parfois, quand on a un filtrage, c'est assez simple, il suffit de changer le nom de domaine. Il y a même un exemple célèbre, il y a un site qui s'appelait Your News Wire, qui était donc blacklisté parce qu'il a posté de la merde, voilà. Par exemple, il a posté que le tweet de Bill Gates était un anti-vax, tu vois, ce genre de truc. Et donc, quand il s'est vu blacklisté, ben, il s'est renommé newspunch.com, et il poste exactement les mêmes choses. Et ça passe à nouveau sans problème sur Facebook.
Oui,
donc,
oui.
Fact-checker, est-ce que tu vois un boulot plus déprimant, toi, Tom ?
Je pense pas. C'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, c'est un truc... enfin, c'est trop simple de contourner, tu vois. C'est un peu la discussion qu'on avait sur Adopi la semaine dernière aussi. C'est trop difficile de contrôler et trop facile de contourner. Donc, à mon avis, ouais. 2 ans, c'est bien, ils ont tenu 2 ans.
Et c'est quand même pas mal, hein. Il y a modérateur Facebook aussi, ou modérateur Reddit, qui peut-être est encore plus déprimant comme boulot. Encore que bon, je sais pas si modère tant que ça sur Reddit.
Non, pas souvent, vu les scandales qui éclatent régulièrement, non.
Alors, comme je disais la semaine dernière, les médias sociaux offrent aussi quand même de belles possibilités. Et cette semaine, il y a la belle histoire WhatsApp. C'est sans doute celle de Behrouz Bouchani. C'est un réfugié iranien, il est kurde en fait. Et c'est un journaliste et écrivain à la base. Il a fui l'Iran suite à une descente dans sa rédaction. Il s'est retrouvé en Australie. Et malheureusement, plus précisément, sur Manus Island. C'est une île en Papouasie où sont, étonnamment, détenus aussi des demandeurs d'asile. Donc Behrouz faisait partie, hein. Donc c'est donc dans cette prison et via WhatsApp qu'il a écrit et transmis son livre qui s'appelle Les montagnes seules pour amis. Ouais, c'est une traduction de No Friends But The Mountains. Le bouquin a reçu les plus hautes distinctions littéraires australiennes quand même, le prix Victoria. Et donc c'est quand même joli. Alors il est resté sur cette île de 2013 à 2017, l'année où la prison a fermé. Pour le moment, son sort reste incertain quand même, et évidemment on espère que son livre est là. Alors son livre c'est aussi autobiographique, hein, et on espère que la notoriété qui va avec va l'aider. Lui et d'ailleurs bien d'autres réfugiés politiques, hein, puisqu'il raconte une histoire qui malheureusement s'est répétée plein de fois. Mais bon, c'est quand même une belle histoire.
Pour une fois qu'on a une belle histoire avec les réseaux sociaux.
Exactement, et alors, ça va pas continuer. Bon, on verra. Alors, rompre avec Facebook, ça rend heureux. C'est même une étude qui le dit. Alors moi, ça m'a fait marrer parce que même Apple s'y est mis cette semaine, hein, puisque les certificats de Facebook et Google ont été brièvement révoqués. Bon, on va y revenir. Hein. Mais d'abord, Tom, je sais pas si t'as vu passer cette étude, c'est une étude quand même sérieuse, hein, l'université de New York et Stanford.
Pas vu, non.
C'est pour résumer, ça montre que couper Facebook 4 semaines avait des impacts qui sont assez notoires, hein, puisqu'il y a réduction du temps passé online en général, augmentation des activités offline, c'est-à-dire socialiser avec la famille, les amis, mais aussi regarder la télé ou, je sais pas, jouer au ballon, enfin, tu vois, des trucs comme ça, offline. Il y a aussi une connaissance réduite de l'actualité et du coup aussi de la polarisation politique. Il y a surtout, en fait, une augmentation du bien-être ressenti, une réduction durable du temps passé sur Facebook, même après la reprise. C'est pour te dire comme cette étude a dû faire dresser les cheveux sur la tête de Marc.
Pauvre Marc.
Le pauvre. Bon, alors, il faut la prendre avec précaution quand même. Hein. Cette étude, ça a été fait au moment des élections de mi-mandat. C'est les élections, c'est toujours un moment très intense. Mm-hmm. Hein. Et puis, voilà, c'est une étude qui est aussi déclarative, donc il faut parfois un petit peu se méfier. Mais c'est quand même... Enfin, ouais, je trouvais ça assez rigolo. Moi, Tom, je pense, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc analogue avec plein d'autres activités en ligne, je sais pas, Twitter, scroller sur Instagram, ou même juste nos fils d'actualité, hein, tu sais. Moi-même, j'ai tendance à regarder les fils d'actu beaucoup trop souvent, hein, Google News 20 fois par jour, est-ce que c'est bien raisonnable ?
Non.
Nous, on prépare un podcast. Donc.
Ouais, bon, voilà, mais c'est vrai qu'en fait, ça revient à la conclusion que arrêter Facebook, c'est reprendre une activité normale, quoi. C'est ça. C'est revenir un peu à la vie et arrêter de voir le truc dans un prisme complètement déformé. Ouais, ça a du sens, hein. Mais c'est valable pour tout, hein, de toute façon. Si t'abuses de quoi que ce soit, c'est jamais... Si tu passes ta vie à jouer aux jeux vidéo, c'est la même chose.
Oui, bah là il y a aussi cet effet qui est que quand tu coupes Facebook, t'es aussi coupé d'une grosse partie des flux d'infos.
Ouais.
Et du coup, tu invites l'infobésité. Tu essaies d'éviter cette surcharge informationnelle auquel on est un peu tous exposés. Hein. Puis bon, je veux dire, nous en particulier, parce que nous, on fait quand même pas mal de veille. Du coup, effectivement, moi, j'ai tendance à regarder les news plusieurs fois par jour. Et c'est vrai, quand tu regardes les news une fois par jour, cette surcharge informationnelle, c'est aussi une charge mentale. Apparemment, ça va mieux si on la lège un petit peu. Donc voilà, c'est regarder les infos une fois ou deux fois par jour, mais pas plus, apparemment, ça sert à rien.
Mais je pense que c'est bien, ouais, de pas essayer de tout voir, tu sais, de laisser couler, hein. Comme avant, en fait.
Oui, bah c'est essayer de, tu sais, de calmer sa FOMO,
ça, ouais.
Fear of Missing Out,
exactement.
Ce fameux phénomène qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder parce qu'on a peur de rater quelque chose. Bon, en tout cas, je me demande si Apple s'est senti mieux, en tout cas quand il a révoqué le certificat de Facebook cette semaine. L'histoire part de la news de la semaine dernière, en fait, hein, sur le VPN que Facebook proposait, donc moyennant rémunération hein, aux jeunes, pour aspirer tout leur trafic, donc pour de la recherche, comme disait Facebook. Alors, il se trouve que d'une part, Facebook n'était pas le seul à faire un truc comme ça, hein, puisque Google aussi, via ScreenWise Matter, qui était aussi un VPN qui faisait à peu près la même chose, bah, il rémunérait ses volontaires en bon d'achat, comme ça. Mais bon, il faut se souvenir que le VPN, qui est donc en gros le VPN au NAVO de chez Facebook, lui-même en son temps pouvait récolter toutes ces données-là, mais c'est pas permis par Apple. D'ailleurs, au NAVO s'est fait virer. Alors du coup, pour le faire quand même, bah, Facebook et Google ont dû trouver un moyen de contourner le store. Et pour ça, ils ont utilisé un super pouvoir, c'est le certificat des développeurs entreprise. Alors c'est une permission spéciale hein,
oui.
De distribuer des logiciels hors App Store, mais uniquement à condition que ce soit aux employés de la boîte en question. Alors le but, il est clair, hein, c'est de donner aux développeurs les moyens de tester des logiciels confortablement ou de déployer des solutions internes, des apps pour les plannings internes, je sais pas, les menus de la cantoche, ce genre de trucs, quoi. Et donc, pour $300, bah, n'importe quelle boîte peut prétendre se faire certifier. Et donc, du coup, bah, c'est ce que Facebook ont utilisé pour distribuer leurs applis de recherche. Bah, sauf que c'est interdit, puisque bah, les participants ne sont pas des employés. Donc, Apple a du coup décidé de décertifier Facebook et Google, dont les applications internes ont immédiatement cessé de fonctionner, hein, mais ça n'a pas duré longtemps. Très honnêtement, ça a duré quoi, 2 jours? C'était plus un coup de semonce qu'autre chose. Donc, Apple, encore chevalier blanc de notre vie privée, ne pouvait pas rester les bras croisés, il voulait faire un exemple. Bon, combien de boîtes ont fait pareil et élargi un petit peu leur périmètre de l'entreprise? Je ne sais pas.
Moi-même, je crois que je l'ai fait, donc...
Oh, c'est vrai?
Oh, oui. Oh oui, développer des trucs qui n'étaient pas tout à fait... qui étaient borderline, oui, en les distribuant d'une façon borderline avec un compte entreprise, oui, bien sûr, oui.
Oui, oui. Ah bah écoute, ne le dis pas trop fort, en tout cas.
Non, si mais je le fais plus, je développe plus pour iOS, ni pour Android, mais oui, ça m'est arrivé, oui.
Il y a prescription. Non, mais je pense effectivement que c'est une pratique qui est relativement courante. Et là, Facebook, bah, voilà, comme un gros lourdeau, il a attiré l'attention là-dessus. Et à mon avis, ça ne va pas faire les affaires. Je pense qu'il y a plein de boîtes, donc ça ne va pas faire les affaires.
Oui.
Alors, la vie privée, bah, c'est assez important. On ne va pas contredire Facebook là-dessus. Facebook, pardon. On ne contredira pas Tim Cook là-dessus. Parce que Facebook, c'est autre chose. Donc oui, donc Tim Cook chantre de la vie privée. Hein, et parce qu'Internet, c'est vrai qu'il connaît des secrets sur nous qu'on ne confierait pas aux premiers venus, et parfois même pas nos proches. Pourtant, bah, les Anglais vont devoir faire confiance à plein d'acteurs tiers pour leur future consommation de porno. Parce que la vérification d'âge obligatoire pour tout site porno au Royaume-Uni va entrer en vigueur vers Pâques. C'est rigolo parce que Xhamster, d'ailleurs, note déjà une hausse de fréquentation de 6% pour, je sais pas, faire des provisions.
Mais qui font des réserves.
C'est ça.
Il faudrait essayer de le corréler avec la vente de disques durs.
Ah, mais tu sais que... mais je pense effectivement... Non, mais il doit y avoir des gens qui ont entrepris de ripper la moitié de Pornhub pour être sûr d'avoir de quoi pendant les années à venir.
APT-get Pornhub. Allez, hop, c'est parti.
Ah, mais leurs serveurs, ils vont exploser début d'année.
Ah, ça va être la folie.
Ça va être une catastrophe. Bon, enfin, je rappelle quand même le principe de cette brillante idée, donc, hein, qui ne concerne pas encore la France, mais allez savoir ce que le futur nous réserve. Donc avant d'accéder à un site, hein, bah, il faudra obligatoirement s'identifier pour certifier qu'on a bien 18 ans ou plus. Il va donc y avoir des sites qui se chargeront uniquement de cette certification, et donc de donner le feu vert à tes envies de rose, on va dire. En la matière, The Register donc, s'est intéressé à Age ID, qui est un des plus gros candidats à ce boulot. Hein, c'est un petit peu le boulot du vigile à l'entrée de la boîte. Age ID, c'est quand même la filiale de MindGeek, qui est propriétaire des plus gros sites porno du monde. Age ID se fait auditer, et il se fait auditer bien volontiers, évidemment, parce qu'il faut quand même rassurer les futurs usagers. Alors, comment ça va se passer? Ben, il va falloir s'inscrire sur Age ID avec un email et un mot de passe. Tu vas envoyer une copie de ta carte d'identité, ou passeport, ou peu importe.
Ça pue la défaite, déjà. Tu envoies ta carte... Enfin, qu'est-ce qui peut aller mal?
Tu vas avoir une copie. Oh là là. Une copie, ben, il faut bien une pièce d'identité hein, pour certifier ton âge. Donc, il transmet ça à une boîte tierce, pas Age ID, qui contrôle que, effectivement, tu as plus de 18 ans. Et si c'est le cas, Age ID va conserver les hashes de tes identifiants. Bon, uniquement les hashes. Donc, il ne conserve aucune information en clair et il ne log rien. C'est juste un site qui dit oui ou non. Au passage, il peut très bien être utilisé pour autre chose que du porno. Puisque c'est une certification juste que tu as 18 ans, quoi. Alors, Age ID est en train de se certifier RGPD compatible, évidemment. Et pour le moment, d'ailleurs... C'est clair qu'on peut faire confiance à MindGeek pour qu'ils le soient, parce qu'ils n'ont aucun intérêt, si tu veux, à éveiller les soupçons. Donc, bien sûr, le fait qu'au lancement, tout soit clean, n'indique pas que dans 10 ans ou dans 5 ans même, ça le restera. D'ailleurs, d'ici là, la loi peut changer, d'autres acteurs vont apparaître, ça c'est certain, et ça pourrait devenir un gros bazar. Alors toi, en tant que papa, HID, est-ce que c'est cher payé ou pas pour protéger nos petites têtes blondes innocentes des vicissitudes de l'Internet lubrique ?
Enfin, c'est toujours très rigolo, c'est... Enfin, à nouveau, je vais encore me répéter, mais enfin, je pense pas que ce soit une solution. Si les gamins, ils veulent y avoir accès, ils y auront accès, point. Enfin, ça me paraît tellement... à nouveau, ça va être encore un truc facilement... Tu vas pouvoir le blouser d'une façon ou d'une autre. Tu sais, ton père, il dort. Alors, tu prends sa carte d'identité, tu la scannes, voilà, c'est fini, c'est réglé. Hein.
Oui, mais je pense que s'il va y avoir des détournements, il va y en avoir, à mon avis, plein. Mais
puis alors, envoyer une copie de ta carte d'identité à des tiers pour que ce soit stocké, mais non.
Alors, ils disent bien que ça ne sera pas stocké.
Oui, d'accord, oui, comme Snapchat, une certaine période. Non, je vous jure, on efface tous vos messages. Ouais, je suis très complotiste, hein, mais j'y crois pas vraiment. Ça sent pas bon, en fait. Ça sent pas bon. Et puis alors, est-ce que c'est pas contournable avec un VPN? Tu vois?
Alors, si, très probable.
Voilà, donc tu vois, j'ai déjà donné une rapide solution, parce que les VPN, maintenant, en plus, t'en as des gratos, même si, effectivement, ils aspirent un peu 2-3 trucs à côté, comme le fait Facebook et Google. Mais, je veux dire, si les gamins, ils ont envie d'aller sur YouPorn, ils trouveront une solution pour y aller. Hein. Ça va leur prendre... Ils vont peut-être... c'est un peu comme quand Adopi est arrivé. Oh là, mon Dieu, ça va être horrible. Puis ça a pris 15 jours, et puis en 15 jours, on avait retrouvé des solutions à droite et à gauche, et puis c'est reparti de plus belle. Enfin voilà, je pense qu'à nous, c'est ce qu'on disait au départ, c'est comme Snopes qui jette l'éponge contre Facebook, tu peux pas lutter contre ça, il faudrait qu'il y ait un système qui soit beaucoup plus compliqué, avec, je sais pas, des empreintes digitales, un scanner d'iris quand t'es devant ton écran, mais alors ça va très loin, et puis alors faire confiance à des tiers encore, pas sûr.
Oui, bah, tu sais qu'il y a plein d'idées, hein. Tu sais qu'il y a même une entreprise qui veut passer par la webcam. Parce que justement, ils ont un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de reconnaître les visages et d'estimer en fait leur âge visuellement, juste visuellement, avec une précision suffisante dans la tranche d'âge, hein, qui est donc qui est intéressante, quoi, c'est-à-dire la transition 18 à moins de 18. Alors, bon, je pense que c'est assez débile aussi, parce que alors, si tu as, je sais pas, une photo en grand format de la tête de ton pépé, ça peut marcher aussi. Je sais pas, en tout cas, c'est vrai que c'est un problème très compliqué, hein, de préserver les mineurs des sites sur lesquels ils ne devraient pas aller, c'est vrai que c'est un problème compliqué. Cela dit, bon, évidemment, je pense que la solution anglaise est une des plus mauvaises. Bon, écoute, on verra bien ce que ça donne. C'est prévu pour Pâques, donc.
Joyeuse Pâques.
Oui, exactement. Mais c'est prévu, je crois que c'est prévu le 2 avril, donc c'est pas une blague. alors, aussi intraitable que veuille être Apple, justement, avec la vie privée de ses usagers, il y a des pays où ça rigole pas. Hein. La semaine dernière, on parlait de Facebook et la Russie. Ben là, c'est Apple qui a accepté de stocker les données des Russes en Russie. C'est la même procédure, d'ailleurs, que celle dont on parlait la semaine dernière. Apple avait apparemment réussi à éviter de se faire virer depuis 2014. Mais là, ça a l'air fini. Alors, Apple a accepté les demandes russes, et comme en Chine, on imagine que ça implique aussi le déchiffrement des données sur demande gouvernementale. Donc pour le moment, ça concerne assez peu de données, finalement. Hein. Ça concerne l'identifiant, les informations de contact, les données de profil. C'est moins que ce que le fournisseur télécom moyen russe doit loguer et fournir en général, puisqu'ils doivent quand même fournir tous les SMS et MMS sur 6 mois. Mais bon, ça pourrait évoluer. Hein. Alors, comme tu disais, Tom, effectivement, ça rigole pas en Russie.
La Russie, oui, ils rigolent de moins en moins. Hein. Russie-Chine, à
ouais,
mon
la
avis,
Russie, c'est pas démarrant. La Russie-Chine, ouais, c'est pas démarrant. Et, bon,
et alors, justement, je suis un peu curieux, justement, de voir comment Apple et Google, Google avait dit non, les moteurs de recherche en Chine, jamais. Je suis curieux de voir comment Apple va réussir à accepter les conditions russes et chinoises par rapport à la vie privée et les données, puisque c'est ce que vend Apple quand ils vendent ces iPhones aussi chers. C'est en nous vantant les mérites de tout ce qui est sur votre appareil reste sur votre appareil. Je ne sais pas comment ça va se passer là, par contre. Je suis curieux de voir.
C'est une très bonne question, d'autant plus que les régimes comme ça qui aiment bien avoir un petit peu la main, il y en a de plus en plus en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on parle bien sûr beaucoup de la Russie et de la Chine, mais il y a aussi l'Inde qui est clairement dans cette mouvance. Oui. Il y a aussi probablement des pays comme le Pakistan, mais aussi des pays sud-américains qui risquent d'aller un petit peu vers cette. Parce que bon, il y a le Venezuela, quand même des liens assez étroits avec la Russie. Bon, enfin, tout ça, si tu veux, ça va effectivement beaucoup façonner la manière dont Internet va être utilisé dans une grosse partie du monde, hein, quand même.
Ouais, j'ai l'impression, tu sais, qu'il y a eu un grand moment de... pas de flottement, je vais dire, mais où c'était vraiment le Far West, Internet. Puis d'un coup, les gens se sont rendus compte de... Mais en fait, on veut pas ça. Et je pense qu'on va vers un truc extrêmement, extrêmement fermé dans le futur, dans plein de systèmes et dans plein d'endroits, en fait, dans plein de pays. Ça me...
Oui, bah c'est probablement parce que Internet s'est passé de quelque chose qui était un truc pour geek, puis à quelque chose qui était une niche, puis maintenant à quelque chose qui est un média de masse, exactement comme la télévision ou la radio.
C'est ça.
C'est donc comme la télévision ou la radio ou la presse, maintenant Internet, c'est devenu un média... Ben, sur lequel on veut avoir la main et on contrôle. Ça, c'est clair et c'est net. C'est plus du tout un truc à la marge qu'on comprend pas trop. Ça, c'est terminé, ça. Cette époque est bien entendu révolue.
Ouais, t'es moche.
Eh oui, un petit peu. Quand on continue sur Apple, peut-être, qui a encore été victime d'un cas d'espionnage industriel, et pas des Russes. D'ailleurs, selon Bloomberg, un deuxième ingénieur de chez Apple a été surpris en train de faire des photos grand angle, au calme, hein, dans un espace de travail relatif au projet Titan sur les voitures autonomes de la marque. Alors il prenait des photos et il a aussi envoyé des documents, il a envoyé quand même 2000 documents à une entreprise chinoise. Donc voilà, c'est plus Skyfall, c'est Titanfall apparemment.
Voilà.
Oui, je pouvais pas la rater. On continue un petit peu avec Apple pour signaler un changement du côté de l'équipe de Siri, puisque Bill Stasior, qui est chef du projet depuis 2012, vient de céder sa place. Alors à cette heure, on ne sait pas encore qui le remplace, mais ça dénote clairement un changement de stratégie. Puisque là, c'est Gianandrea, qui est donc ex-spécialiste IA chez Google, hein, et qui est chef de la division IA d'Apple, désormais, qui est en charge de le remplacer. Alors, Siri, il était sur une voie d'amélioration graduelle. Si on avait une base, on l'améliorait un petit peu, comme ça, année par année. Mais bon, depuis l'émergence d'Alexa et de Google Assistant, bah, Siri est un peu à la traîne.
Un peu.
Du coup, ouais, moi j'en reste pas, on reste professionnel. Donc Siri pourrait redevenir du coup un projet de recherche à long terme avec à la clé une refonte profonde et de grosses évolutions à l'avenir. Peut-être c'est un Siri 2.0 qui serait, disons, plus compétitif avec ses concurrents. C'est un futur probable, on va dire. Alors il y a aussi, tu as certainement vu cette histoire-là, l'Apple Watch a sauvé une vie cette semaine. C'est la détection de chute de la montre, hein, qui a alerté les secours et qui a donc probablement sauvé la vie de ce Norvégien de 67 ans. Puisque bon, effectivement, après les gens qui ont découvert leur fibrillation atriculaire atriale, je sais plus comment on dit, enfin bon, avec le petit électrocardiogramme intégré, là, la détection de chute fait preuve de son utilité. Alors on n'en doutait pas pour le coup. C'est vrai que c'est une fonction, moi la détection de chute, effectivement, c'est une fonction que j'aimerais voir même dans d'autres appareils ou dans les téléphones, en fait, tout simplement. C'est pas ton téléphone dans la poche. Tu tombes, le téléphone, comme la montre, hein, le détecte, et elle te demande si ça va, et si tu réponds pas dans la minute, elle appelle les secours toute seule. Et ça, effectivement, c'est une fonction qui peut être vraiment précieuse. Hein. C'est pour les personnes âgées, mais même pas seulement, en fait.
Non, pour tout le monde. Hein. T'es tout seul en forêt, tu fais du vélo, tu te vôtres, ça peut être intéressant. Ouais.
Bah évidemment, moi-même, je change une ampoule, je me blinde comme un abruti, ça peut être utile.
Ça sent le vécu.
Pas du tout. On peut enchaîner avec les potins Bloomberg. Alors, selon eux, les appareils Apple de 2019 seraient ennuyeux, globalement. Je résume, de simples mises à jour, globalement, des modèles actuels, alors, possiblement avec une meilleure caméra, un capteur supplémentaire, et un possible glissement de l'USB-C, de Lightning vers USB-C, hein, une éventualité dont on a déjà un peu discuté. Mais quand même, plus intéressant, je pense, ce seraient les modèles de 2020, qui, eux, incluraient des caméras 3D au dos. Il y aurait un depth sensing, comme celui en façade, tu vois ça, mais celui en façade fonctionne qu'à petite distance.
Oui.
Alors qu'au dos, il y aurait une caméra 3D qui aurait une portée dans les 4 mètres, qui serait suffisante donc pour mapper une pièce, par exemple, faire de la réalité augmentée, qui serait quand même autrement plus sophistiquée. Donc ça ressemble quand même pas mal au projet Tango, au vieux projet Tango de Google, et moi je trouve que c'est quand même vraiment intéressant. Et bon, alors il parle aussi de iOS 13 éventuellement, qui aura une refonte du home screen, qui sera un petit peu revue. Il y aura des améliorations sur l'explorateur des fichiers, qui serait comme sur Android, par exemple, qui aura accès à peu près à tous les fichiers. Bon, on peut rêver, hein. Je ne suis pas certain. Est-ce que toutes ces choses t'allèchent, toi, te feraient revenir chez Apple ?
Non. Je dirais juste, il était temps. Il serait temps, plutôt. Il serait temps qu'ils s'y mettent. Voilà. Il y a des très bonnes choses chez Apple, comme la détection de tout ce qui est santé avec l'Apple Watch, mais tout le reste, oui, il est temps, oui. Il serait temps. D'ailleurs, je n'ai pas rajouté la news, mais j'ai vu aujourd'hui que certains fournisseurs du Face ID, en tout cas de la technologie Face ID de chez Apple, apparemment commencent déjà à fournir pour certains appareils Android. Donc ça voudrait dire que peut-être en 2019, on aurait effectivement plus de notch et peut-être un Face ID, un vrai Face ID sur Android, ça pourrait être intéressant. Et à mon avis, ça sortira pas à 1500 balles.
Écoute, il y a tellement de choses qui sont, qu'on attend pour 2019. Il y a les écrans pliables, il y a les téléphones sans notch, il y a les téléphones, tu sais, où il y a que des écrans avec des gros capteurs sous l'écran, des gros capteurs biométriques sous l'écran. Il y a des trucs avec des caméras 3D.
Des téléphones sans trous.
On attend tellement de choses côté téléphone cette année que le NWC pourrait être énorme ou extrêmement, extrêmement décevant peut-être en tous les cas. Ça sera bientôt fixé.
Je sais pas.
Mais c'est vrai que c'est très excitant tout ça. Je trouve ça vraiment très cool que ça bouge à ce point dans le milieu de la téléphonie.
Si tu veux, moi aujourd'hui, j'attendais il y a encore quelques années, je veux dire, la grand-messe d'Apple, les keynotes pour moi, les présentations de produits, c'était vraiment un truc qui me faisait rêver. Aujourd'hui, plus du tout, quoi. Je me surprends plus à être agréablement surpris sur les présentations de Oppo, sur du Xiaomi, sur du Huawei. Il y a vraiment eu un shift au niveau du wow effect, en tout cas pour moi. Si tu veux l'USB-C, ouais, il était temps, quoi. Moi, je suis hyper content d'avoir tous mes objets en USB-C à la maison. Que t'aimes ou pas l'USB-C, c'est un truc, mais qui est tellement... Ça marche, quoi. Point. Donc...
Non, mais ça c'est clair que c'est très bien. Moi j'espère effectivement qu'Apple va revenir avec des trucs, avec un wow effect, comme tu dis, puisque c'est quand même toujours agréable. On verra bien si ça arrive en 2020. Bon, apparemment, ça devrait pas arriver en 2019. On vous tiendra au courant. De toute façon, puisqu'on parle de Bloomberg, on se rappelle de l'annonce fracassante l'an dernier selon laquelle
Les
espions chinois auraient implanté des puces mouchards minuscules dans les cartes mères de Supermicro. Alors, c'est des puces qui se seraient retrouvées dans divers serveurs américains, on a beaucoup discuté de ce truc, et rien de vraiment conclu, on était venu appuyer cette thèse, globalement. Cela dit, même si ce cas spécifique n'est pas du tout certain, il semble que l'idée de compromettre des machines de la fabrication, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est une éventualité à laquelle les services de renseignement ont pensé depuis une bonne dizaine d'années, spécifiquement pour la Chine d'ailleurs, et en particulier en ce qui concerne les BIOS et autres fermoirs, quoi. Parce que bon, évidemment, la Chine fabrique énormément de choses, donc elle est donc bien placée pour attaquer la chaîne, hein, mais les États-Unis aussi ont utilisé ces méthodes. Il y a des documents internes de la NSA qui ont été publiés par Snowden, qui datent de 2007 à 2013, et la NSA, en partenariat avec la CIA, a mené des opérations un petit peu partout, y compris en Chine, en fait. Les documents font aussi état d'actions des agences allemandes et françaises. Alors, c'est vieux, hein, parce que dès 2009, cette vulnérabilité est listée comme une des plus dangereuses des cybermenaces, il y a 10 ans déjà, hein, et c'est vrai que l'actuelle guerre américano-chinoise avec Huawei, là, c'est totalement de cette mouvance. Hein. Et donc, si la Chine est un des principaux candidats, la Russie aussi, évidemment, hein, fait partie des usual suspects, on va dire. En 2012, il y a des inquiétudes sur la russitude de certains acteurs, qui d'ailleurs préfiguraient aussi le bannissement de Kaspersky, hein, qui a été viré du gouvernement US. Et donc les attaques, comme ils disent, supply chain, sont craintes pour les ordinateurs, mais aussi pour les équipements télécoms et militaires et stratégiques. Tous les équipements, évidemment, ça pourrait constituer une vulnérabilité, même avec du matériel non connecté à Internet d'ailleurs, puisqu'il pourrait se connecter de force quelque part. Et maintenant, juste en implantant un malware dans le BIOS aussi. D'après des documents de 2012, ce serait arrivé. Il y aurait eu des versions compromises des BIOS American Megatrends et Phoenix, donc des marques assez connues, des utilisateurs de PC, des versions russes et chinoises, sans lien entre elles d'ailleurs, de ces trucs compromis. Et tous les firmwares sont sujets au hacking d'ailleurs, hein. Celui d'un disque dur même a été découvert par Kaspersky en 2015. Et depuis, alors heureusement, rassurez-vous, depuis, les industriels disent que le niveau de sécurité des BIOS a énormément évolué, en grande partie grâce à l'UEFI, tout simplement. Et du coup, dès 2011, hein, les renseignements US suspectaient des liens entre l'armée chinoise et les équipementiers télécom chinois. La NSA est allée jusqu'à hacker les communications de Huawei pour le prouver, et en pure perte. Alors ça, c'est quand même magnifiquement ironique que la NSA ait donc espionné Huawei pour prouver qu'elle espionnait les États-Unis.
C'est rigolo. Mais je pense qu'ils sont en train de sentir aussi le vent tourner, oui. Ils ont perdu la main, si tu veux, il y a quelques années, je pense qu'ils étaient les spécialistes de l'espionnage de masse. Et ils s'aperçoivent qu'ils sont plus si bons que ça et qu'ils sont en train de se faire doubler par pas mal de monde. Donc ils essayent de récupérer comme ils peuvent.
Alors les Allemands, par contre, eux, ils font des attaques de chaînes de fabrication depuis les années 50. C'est ça qui est fabuleux. Le BND, donc après ce que j'ai compris, c'est la CIA allemande en
C'est ça.
gros, crée des compagnies écrans qui proposent de sous-traiter des composants communs qu'ils noyautent eux-mêmes. Et nous-mêmes, la DGSE, hein, en 2002, aurait fourni des ordinateurs et des fax au Sénégal, qui leur aurait permis dès 2004 d'intercepter toutes les communications qui passaient par eux. C'est pas bien. En 2010, les États-Unis auraient mené une attaque contre la Syrian Telecom, du même genre. Donc la compagnie avait fait une commande matérielle, hein, que la NSA a interceptée, redirigée. Elle y a intégré un petit mouchard. Et plusieurs mois plus tard, le petit mouchard, il a appelé papa. Et donc non seulement la NSA a gagné l'accès à l'Internet local, ce qui était attendu, mais aussi au tout le réseau cellulaire, puisque tout le trafic cellulaire passait en fait par les backbones de l'Internet du pays. C'est pas la seule fois d'ailleurs documentée où ils ont réussi leur coup. En fait, il est même possible que des attaques puissent se coordonner via les ambassades. Du coup, ça fait des points de partout dans le monde. Il y a eu des cibles à Pékin, en Corée du Sud, en Allemagne, et la plupart du temps dans des fabricants de télécoms, hein, qui sont souvent évoqués. Alors, bien sûr, à la NSA, le département chargé de tout ça aurait des noms précis. Hein, donc, il y aurait TAO, pour Tailored Access Operations. Et il y a la division, il y a même une division donc, dans le TAO chargée de créer des implants matériels ou logiciels, c'est la Persistence Division. La bien nommée Persistence Division, puisqu'effectivement, une fois que c'est implanté hardware, ça persiste. Et c'est vrai qu'elle travaillait sur plein de trucs, sur des projets de BIOS compromis pour Linux, de fermoire de disque dur. Il y avait même un projet assez rigolo, utiliser le port série d'un disque dur comme une radio de courte portée.
Punaise.
Donc apparemment, ouais, c'est vrai que c'est assez malin. Je sais pas, ils arrivaient à moduler donc les signaux radio pour extraire des données d'un disque dur sans le toucher. Bon, à courte portée, il fallait être proche, mais quand même sans le toucher. Bon, il y a eu des implants aussi qui ont été imaginés pour compromettre l'hyperviseur des CPU AMD. Bon, enfin, des trucs très amusants, quoi. Donc même si l'histoire de Bloomberg et Supermicro est bidon, il faut se rendre à l'évidence, hein. Les attaques à la chaîne de fabrication, non seulement elles existent, mais en réalité, tout le monde le fait. Ça rend pas parano, ça, tu penses?
Si, mais j'étais déjà parano avant, donc ça ne fait que
Ah, tu
ça ne
triches.
fait que confirmer ce que je pensais depuis des années.
Mais alors du coup, est-ce que quelque part, ça éclaire pas sous un autre jour cette guerre commerciale avec Huawei? Pourquoi à toute force les États-Unis veulent exclure
Ça
Huawei?
l'a pas éclairé dans mon cas. Hein. Je sais d'où ça vient et où ça va. Hein. C'est pas les États-Unis qui ont les meilleurs intérêts de protection du monde. C'est juste qu'ils ont perdu la main et qu'ils aimeraient pas se faire. C'est l'arroseur arrosé, c'est l'espionneur espionné. Ils veulent récupérer le c'est une histoire d'influence et de pouvoir, hein, de toute façon. Nous et nos cartes pour aller sur Edge ID pour voir du porno, c'est que dalle. C'est que dalle.
Ah oui, c'est clair. Là, on entre dans le jeu d'espions géopolitique, le Spy Games. Alors, je sais pas si nous, on est dans le Spy Games. D'ailleurs, je sais pas qui serait Robert Redford et qui serait Brad Pitt dans ce truc-là. Je suis sûr que l'Europe, ce serait pas Brad Pitt.
Non.
Je sais pas pourquoi. Enfin, tous les cas, c'était quand même assez intéressant. Bon, si jamais il y a des trucs sur cette affaire Bloomberg qui, depuis, on n'en entend plus
Non.
parler. Donc, on sait toujours pas si c'est vrai ou pas. Bon, même si, de manière assez écrasante, le consensus est que c'est très peu probable que ce soit vrai.
Ouais. Bon, on verra. Mais bon.
On verra, exactement.
Bon,
Bon, on va peut-être passer à la deuxième truc, si
allez,
tu veux bien, la deuxième
c'est
section. La
parti.
deuxième section, c'est le début de la fin, c'est le début de la fin, mais le début de la fin des débuts, finalement, puisque tout a une fin, même les débuts. Puisque le smartphone, après tout, c'est récent. C'est encore le début, hein, ça a quoi? Même pas 10 ans. Et
12 ans.
pourtant, 12
Enfin,
ans, ah, c'est pile poil
les
12 ans.
smartphones.
Donc 12 ans, on va
Allez.
dire 12 ans. Et pourtant, l'âge d'or du smartphone, en tout cas l'âge d'or des ventes de smartphones, hein, c'est déjà derrière nous. La croissance à deux chiffres, c'est fini. La croissance à un chiffre, c'est fini. 2018 a été la pire année en termes de ventes, puisqu'il y a eu 4,1% de baisse par rapport à l'année dernière. Et surtout, il y a eu des volumes de ventes qui sont dignes de 2014, l'horreur. 1,4 milliard seulement.
Ouais.
Et oui, parce que voilà, les gens utilisent leur téléphone plus longtemps. Les prix montent, hein, tu le disais.
Eh oui.
Les seuls constructeurs qui ont réussi à tirer la épingle du jeu, tu t'en doutes, hein, c'est les Chinois Huawei, Oppo et
Bien
Xiaomi,
sûr.
probablement avec des modèles bon marché. Hein. Le marché chinois, pourtant, est encore pire puisqu'il y a eu 10% de baisse.
Ah oui.
Cette fameuse baisse qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup nui à Apple. Après, bon, c'est un déjà dit, enfin, je pense qu'on a déjà dit plusieurs fois, hein, le marché du smartphone, il est arrivé à maturité,
oui,
bon, il est saturé. Les téléphones sont bons pour presque tout, même à des prix très très bas, donc c'est sûr que persuader les gens de dépenser 800 ou 1000 euros tous les deux ans, c'est de plus en plus dur.
Oui, et puis je pense que de toute façon, c'est une bonne chose. On ne peut pas continuer à fabriquer des smartphones, à ne pas savoir, globalement, hein, je ne parle pas d'Apple, à ne pas savoir les recycler, à ne pas savoir quoi en faire, à continuer d'exploiter des ressources terrestres qui vont nous manquer sous peu. C'est bien, non, c'est bien si les gens changent moins souvent de smartphone, je trouve ça plutôt positif, moi, tu vois.
Alors pour la planète, c'est indéniablement positif de toute façon. Hein. C'est-à-dire produire moins de smartphones, en changer moins souvent, et donc produire moins de déchets électroniques, je pense que c'est très très bien. Évidemment, ça ne sera pas pareil si tout le monde recyclait à 99 ou 98% de tous les smartphones,
sûr.
Mais évidemment, c'est très 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 loin d'être le cas.
Oui.
Donc finalement, bah oui, on peut ça. Hein. Je pense que plus c'est... En fait, c'est une très bonne nouvelle.
Bah oui, puis tout le monde est équipé, hein. Enfin, je veux dire, maintenant, tu vas dans les pays les plus pauvres. Tout le monde a un smartphone, aussi simple qu'il soit. C'est vrai que maintenant, tu as des smartphones, même en Europe. Hein. Tu regardes les nouveaux Xiaomi qui sortent à 80-90 balles. Bah, tu fais des photos. Alors, c'est pas des grandes photos, hein. C'est pas l'appareil photo d'un iPhone. Mais bah, voilà, ça fait le job, quoi. Et c'est pas pire que certaines caméras qu'on pouvait trouver il y a une dizaine d'années. Donc, bon.
Oui, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, à 100 euros, tu as un smartphone qui n'est pas un super smartphone, mais qui est vivable,
voilà, c'est ça.
Qui assure la base, quoi, qui assure les fonctions de base. Effectivement, c'est vrai. Alors, tu sais ce qui est fini aussi ?
Ah oui, j'ai vu.
Google Plus.
Mais je crois que c'était mort il y a 20 ans déjà, pardon.
Non, la date du décès officiel, c'est le 2 avril. Ah d'ailleurs, c'est ça qui est le 2 avril, je me suis planté tout à l'heure. C'est pas le HID, c'est à Pâques, mais je ne sais plus quand c'est exactement.
On regardera.
Bon, voilà. En tout cas, c'est ça qui n'est pas une blague, hein. C'est même triste. Une petite larme peut-être pour Google+.
Mais je pense que c'était, je vais être honnête, je pense que c'était un des meilleurs réseaux sociaux dans sa façon d'être, dans sa construction, dans l'état d'esprit qui était insufflé. Je pense que Google, comme beaucoup de fois, a péché par... ils n'ont pas voulu le pousser beaucoup plus. Je trouve qu'il y avait des trucs vraiment géniaux dans Google+. Mais il est arrivé un peu après la bataille et puis il a pas eu la force médiatique peut-être qu'il aurait mérité. C'était là, il est arrivé en plein âge d'or, je vais dire, de Twitter et de Facebook et d'autres qui étaient en explosion totale. Et Google l'a posé là et il a pas fait grand chose quand même. Hein. Il a essayé de te le forcer à certains moments et puis ça a été la révolte. Mais c'est dommage. C'est dommage. Je trouve qu'ils avaient un bon produit, encore une fois, et qu'ils l'abandonnent sans l'avoir poussé dans ses retranchements. Ou... Bon, tant pis. Tu l'utilisais, toi ?
Bah, moi, j'avais un petit peu essayé. Je trouvais effectivement que le système des cercles était assez intelligent parce que tu avais une idée assez claire de ce que tu partageais avec qui, tout simplement. Et je trouvais que c'était plutôt malin et j'avais l'impression que c'était un peu le contre-pied de Facebook, justement, où par défaut, tu partageais un peu à tout le monde. Du coup, je suis un petit peu déçu que ça n'ait pas marché. Bon, comme tu dis, c'est loin d'être une surprise. Hein. Ça fait des années, malheureusement, qu'ils vivotent, Google+. Mais effectivement, c'est très dommage.
Ouais. Ah, je sais pas, hein, Google, c'est vrai qu'il a aussi une tendance à recycler. On le voit bien avec Inbox qui est en train de mourir, mais qui est recyclé dans les nouvelles bêtas de Gmail. Donc, Google a une tendance à recycler ses bonnes idées, comme Waze avait été recyclé dans la Google Suite avec l'édition en temps réel à plusieurs. Donc tout ça, peut-être qu'il y aura une seconde vie dans une autre forme, peut-être, je sais pas, dans un énième truc, une application de messagerie de Google. Je sais pas, j'espère, hein, il y avait vraiment de bonnes idées, comme on dit.
Bah, j'espère aussi, on verra bien. De toute façon, en attendant, Google va très bien, hein. Son chiffre d'affaires est en hausse de 39,2 milliards pour un bénéfice net de 8,9 milliards. C'est quand même, ça va, c'est très largement, grâce à son business publicitaire qui est encore en pleine forme. Et ça, malgré les quelques petits scandales qu'il a eu en 2018, lui aussi. Donc ça continue de grossir, en fait, le business Google, sauf que ça grossit un tout petit peu moins vite, mais enfin, c'est pas de quoi susciter une grosse inquiétude. Notre truc qui se termine, par contre, c'est le stockage illimité, ou presque, sur Flickr. Voilà. Hier, hein, le 5 février, le Tera gratuit sur Flickr a vécu. Et ça se termine, désormais ce sera 1000 photos au maximum, et sinon ce sera 50 dollars par an pour avoir plus d'un espace qui est virtuellement illimité comme avant. Et du coup, j'ai l'impression que ça y est, c'est terminé, on rase plus gratis sur Internet. Ça, c'est quand même triste.
C'est fini. On va revenir tous sur cette expression que je déteste, mais si c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais on est en train d'arriver là aujourd'hui. C'est, Avant, c'était beau, c'était un Eldorado. Oh, plein de trucs gratos, on paye pas. Ouais, mais bah derrière, il y a quand même des serveurs, il y a du stockage. Comment c'est rémunéré? Comment c'est possible? Dommage. Dommage, c'était pas mal, Flickr. Mais c'est pareil, c'est le truc qui a jamais été poussé très très loin, beaucoup plus loin. C'est vrai que ça n'a pas eu. En tout cas, en Europe, j'ai pas l'impression que ça a eu un succès tel que j'ai pu le voir en Amérique du Sud et aux États-Unis, peut-être. Je me trompe peut-être.
Non, non, je pense que tu as raison. C'est plutôt américain, ce Flickr. Mais Flickr, ça a un gros succès aux États-Unis. Et Flickr, il y a quand même énormément, énormément de gens, énormément de photos dessus. Le cap des 1000 photos, faut quand même se dire que c'est 97% des gens qui sont en dessous,
Ouais, voilà.
d'après les stats Flickr. Donc c'est pas non plus catastrophique. Mais c'est aussi révélateur, oui, comme tu disais, de la fin d'une époque où effectivement les services Internet étaient financés par les business angels.
C'est ça.
Et donc on ne le voyait pas, on n'en avait aucune idée, mais évidemment tous ces serveurs, tous ces ingénieurs, ben, ils étaient payés par des capital risques. Et bon, maintenant, il faut bien trouver des business models quoi, hein, qui soient viables sur le long terme. Et la plupart du temps, ben, c'est comme ça, tout simplement. Bon, c'est assez normal finalement, c'est assez sain. Hein. C'était avant que c'était pas normal, mais on s'en rend
Ouais,
compte.
c'est ça.
Il y a un faire-part de décès aussi pour l'Itanium. D'Intel. Si vous connaissez pas ce processeur, c'est normal. Il n'a pas eu le succès escompté, mais pourtant, c'est quand même le premier CPU 64 bits d'Intel, hein, qui est né en 2001. Et c'est au départ, il a été dès le départ pensé pour le calcul haute performance. Hein. Il est d'ailleurs incompatible et architecturalement très différent des CPU classiques. C'était d'ailleurs un pari très audacieux, hein, qui a même eu son heure de gloire avec l'Itanium 2, qui a été exploité par HP notamment. Alors l'histoire l'a rattrapé, par contre, hein, les Xeon classiques font désormais aussi bien pour moins cher. Alors bon, ben voilà. En 2021, quick, ce sera fini, plus aucune livraison d'Itanium, une page se tourne, c'était un CPU intéressant, il faudra peut-être reparler, je sais pas, à un moment. Mais voilà, donc ça c'est terminé. Sinon, bon, Tesla, c'est aussi l'heure du bilan pour Tesla, en tout cas, ses résultats du dernier trimestre. Et comme annoncé, bah, c'est pas brillant, seulement 210 millions de bénéfices pour quand même 6 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même vraiment peu.
Ouais.
On en avait parlé, c'est pas une surprise. Hein. Tesla fait tout pour baisser le prix de ses modèles 3 et donc gagner des ventes. Il envisage aussi de se concentrer sur la conduite autonome, hein, qu'il estime, d'après lui, est déployable vers la fin de l'année. On verra bien, nouvelle année, nouveau challenge pour Tesla, ça n'en finit pas.
Bah Apple va les racheter.
Ah, je sais pas, moi je pense qu'Apple devrait racheter Nintendo.
Oh non, s'il vous plaît,
Pour
non,
faire du jeu
non,
vidéo, hein,
non,
si.
non, non. Rachetez autre chose, mais pas Nintendo. Rachetez ce qui est les stocks de Ouya. Faites-en un truc bien. Mais non, laissez Nintendo tranquille.
Et pourquoi ils auraient besoin de la technologie Ouya? Ils s'en
Je sais
foutent.
pas, mais tu vois, c'est un truc dont je me fous. Ça me ferait ni chaud ni froid. Mais Apple qui rachète Nintendo, après, t'auras une Switch à 1500 euros. Non, c'est pas possible.
Non, je pense qu'ils pourraient racheter Dyson en fait.
Dyson et Nintendo, et ils font une Switch portative qui fait aspirateur aussi. Et là, c'est un carton. Non.
Ah ben tu sais, ouais, mais le problème c'est que vu les prix des aspirateurs Dyson,
Bah, c'est pour ça,
ce
ce
sera
serait
compliqué.
parfait. Non, mais.
Enfin, on verra bien, mais tout bon, toujours est-il que. Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a complètement terminé, là, qui s'est bien crashé? Voyons voir qu'est-ce que ça pourrait être. Les cryptos, mais oui, mais bien
Et
sûr.
c'est fini aussi.
L'arrivée vers le. Ah, ça, c'est fini aussi. Enfin, c'est pas fini, mais bon, disons que voilà, il y a eu quand même une grosse, grosse gueule de bois. Parce que la ruée vers le crypto or, bah, c'est terminé. Parce que si 2018, ça a été une année majeure pour les mineurs, si j'ose dire, le marché des cryptos s'est quand même bien effondré. La hype est passée, et évidemment, l'aubaine que c'était pour les fabricants de cartes graphiques, et bah, c'est plus qu'un doux souvenir. Donc AMD et Nvidia l'ont bien senti passer, hein, et surtout Nvidia d'ailleurs. En décembre, son action est tombée de 50% suite à un excès de cartes Pascal, et d'après Mitch Steve de la Banque Royale du Canada, ça aurait dû être pire. Alors, si on écoute Nvidia, les cryptos en 2018, ça représente 600 millions de bénéfices. Or, en regardant les statistiques d'Ethereum et des autres cryptos, qui sont censés être minables par les cartes graphiques, ben les cartes utilisées devraient représenter une valeur totale de 2,75 milliards, dont Nvidia aurait quand même dû capter les trois quarts, c'est-à-dire dans les 2 milliards. Et d'ailleurs, Nvidia a baissé ses prévisions de 500 millions sur ce trimestre, hein, ce qui serait plus cohérent avec 2 milliards sur l'année que les 600 millions annoncés finalement. Donc, pour l'analyste, en gros, il dit clairement, je cite, il y a un testicule dans le velouté. Si c'est vrai, il faudrait s'attendre à des résultats pas brillants pour le trimestre à venir.
Oups.
Ouais. Dommage pour Nvidia, on aime bien.
Ouais.
Il y a un autre truc qui est apparu, qui est arrivé dans le milieu des cryptos là, cette semaine, c'est le cas Quadriga CX. Tu connais Quadriga CX?
Ouais.
Alors, avant, je ne connaissais pas.
Hein, j'ai entendu parler, mais...
Ouais, c'est une bourse en ligne, hein, c'est une bourse de crypto-monnaies, comme il y en a des dizaines, hein, et elle a fait la une, vraiment, des sites cette semaine, parce que son patron était très, 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 très prudent, voire trop prudent. Je dis ça parce que, malheureusement, bon, il est mort à 30 ans, ça c'est triste.
je rigole pas de ça, mais...
Non, mais on espère, non, mais alors, quand même. Il est mort en Inde, donc prématurément, et il était très soucieux du piratage, il a bien raison, hein. On a vu que les piratages des portefeuilles, c'est arrivé plusieurs fois. Et donc, il gardait la plus grosse part des fonds de sa boîte sur un portefeuille, et qu'il gardait offline, sur un ordinateur portable sécurisé. Sécurisé jusqu'aux yeux. Bon, on le comprend, hein, puisque ça représente quand même 137 millions de dollars. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça représente 100 000 utilisateurs, quand même. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il a communiqué le mot de passe à personne, et que donc, ben, les fonds sont perdus à jamais. Voilà. Alors, les proches, évidemment, ils ont tout essayé pour hacker son ordi, hein, c'est-à-dire le mot de passe de le nom de jeune fille de sa mère, son premier animal de compagnie, tu vois, ce genre de conneries. Putain. Mais non, ça n'a pas marché. Parce que voilà, quand les choses sont bien faites, eh ben, écoute, oui, le chiffrement, ça marche, c'est imparable. Et donc, ben, les 137 millions de dollars sont désormais inaccessibles à Quadriga, comme à ses clients.
Oh, putain.
Bon. Donc il est dans une grosse, grosse panade. D'ailleurs, là, je crois qu'il a 30 jours pour faire une proposition. De toute façon, sinon, ils sont en liquidation. Enfin, c'est la catastrophe, en gros, pour Quadriga. Eh oui, quand trop de sécurité tue la sécurité.
Tu vois, bon, il aurait dû bosser chez Facebook, ce mec-là.
Je sais pas s'il aurait dû bosser chez Facebook, mais bon, il aurait dû faire un petit peu...
Putain, c'est quand même je trouve ça tellement fou, si tu veux, t'entends des histoires, mais c'est presque incroyable. On te le raconte, tu as du mal à y croire. Je veux dire, 130 millions qui disparaissent parce qu'il y a un mec qui est mort et qui était, enfin, c'est pas un Darwin Awards, mais presque.
C'est vrai, mais ça démontre, si c'était nécessaire, que les crypto-monnaies, quand ça veut être sûr, c'est sûr.
C'est clair. C'est un cas d'école.
C'est un cas d'école, exactement, exactement. Alors, la crypto-monnaie, donc, ça a ses avantages, hein, et d'ailleurs, on avait parlé du pétro, la crypto-monnaie d'État vénézuélienne. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu que les règles de régulation du pétro ont été publiées, hein, sous forme d'un décret. Donc, ça veut dire, grosso modo, c'est les régulations auxquelles sont soumis les mineurs et les bourses qui devront être validées, hein, tout simplement, par le pouvoir central. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est centralisée, bizarrement. Bon, c'est une monnaie qui est louche, hein, on va pas se mentir, on l'avait déjà parlé. Il y a eu une ICO privée qui était vraiment très bizarre, on ne sait pas du tout quels sont les investisseurs majoritaires. La valeur sera quand même reliée au pétrole et au gaz du pays. Et bon, le mode de fonctionnement technique sera aussi toujours aussi flou. Pourtant, le pétrole va servir, et en fait, il sert déjà. C'est ça qui est hallucinant, c'est que pour payer son passeport au Venezuela, il faut le payer en pétro. Et d'ailleurs, il faut le payer une somme, évidemment, une somme mirobolante pour le niveau de vie du pays, puisque c'est quelque chose comme 200 dollars. Il me semble, les 200 dollars dans le pays, ça représente, je sais pas, même c'est plusieurs fois le salaire mensuel.
Ouais. Hein. Ouais.
Donc c'est catastrophique, évidemment. Si ça, c'est pas pour décourager les gens de faire du tourisme ailleurs qu'au Venezuela, bon, bref. Bref, le pétrole sans le gaz, hein, c'est assez clair. Mais une autre crypto nationale va encore voir le jour. Donc ça continue. Il y a l'Arabie Saoudite qui va expérimenter une crypto spécifique pour les échanges de fonds transfrontaliers Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Les deux pays sont très potes, de toute façon. Et donc ils vont partager une blockchain qui leur permettra d'échanger des milliards, hein, sans avoir besoin de passer par les grandes banques internationales. Ce sera plus rapide, il y aura moins de frais, la monnaie servira d'abord entre les banques des deux pays, mais c'est pas sûr qu'elle soit jamais utilisée par le grand public. Et c'est vrai que l'an dernier, on avait déjà eu vent de projets comme ça. Hein. C'est la Russie qui envisageait de faire pareil avec la Chine, le Brésil, l'Inde et les pays de l'Est. Et alors du coup, toi, Tom, est-ce que tu crois aux cryptos? Est-ce que tu crois aux cryptos pour le grand public, ou est-ce que tu crois aux cryptos comme supramonnaie? Parce que ça, c'est une autre possibilité.
Plutôt comme supramonnaie. Pour le grand public, non. Non, pas avant très 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 longtemps. C'est pas...
Tu penses le... Ouais.
Non, je pense pas que ça puisse marcher. Quand on voit le décalage... Enfin, les gens, ils ont déjà du mal avec leur carte bleue. Leur expliquer ce que c'est que de la crypto-monnaie, non, pas tout de suite. Trop tôt.
Tu sais qu'on doit depuis très longtemps faire un épisode sur la fin du cash, qui est un petit peu... Enfin, qu'on doit faire, mais bon, on a du mal à trouver, enfin, un petit peu de mal, parce qu'effectivement, comme Pod est absent en ce moment, et qu'il voulait y participer, c'est en pause, mais c'est vrai qu'on voulait faire un épisode sur la fin du cash, parce que clairement, ça a l'air d'être le sens de l'histoire.
Mais oui, mais...
Et il y a les... Bon, voilà, on va pas se mentir, il y a les grands instituts financiers qui poussent quand même pas mal à la roue, et dans certains pays, on est assez proche, finalement, d'un zéro cash. Donc, bon, c'est vrai que les cryptos, finalement, c'est une monnaie virtuelle, disons, comme une autre. C'est donc une grande question de savoir comment tout ça va, disons, former notre futur.
Quoi. Dans 10 ans, ce sera peut-être complètement commun et on en rigolera. Mais pour l'instant, à part quelques initiés, le grand public, c'est vrai qu'il est c'est encore loin de ses préoccupations, je pense.
Oui, bon, ça c'est certain. Ouais. Puis ça dépend aussi beaucoup des pays, des cultures, voilà. D'ailleurs.
C'est vrai que pour avoir vécu en Amérique du Sud, enfin, les gens les plus simples qui ont déjà du mal à trouver des billets parce qu'ils sont pauvres, je les vois pas avoir des moyens de paiement en crypto-monnaie, comprendre comment ça fonctionne. Enfin, tu vois, ça demande quand même une gymnastique mentale et technologique.
Pas forcément, hein. Tu peux très bien utiliser quelque chose sans comprendre comment ça marche.
Ouais. Ouais, mais après, c'est pareil, il y a toujours c'est l'accès, c'est, tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu et j'y crois pas pour l'instant.
Bah, en Chine, de toute façon, on n'est pas loin d'un zéro cash.
Oui.
De fait, voilà, parce que les outils qu'il y a des gens en Chine permettent ça, quoi. Les gens sont énormément équipés en téléphone mobile qui peuvent servir donc à payer soit par carte, soit tout simplement payer via leurs applis. Ouais. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus rentré dans les mœurs. Hein. Donc du coup, effectivement, on peut se demander à quel point ça va être le cas en Europe. Les pays du Nord, par exemple, sont très réceptifs à ce genre de choses. Beaucoup moins au Sud. Très peu en Allemagne. Donc ça dépend énormément des pays, quoi.
Ouais, et puis après, je sais pas, il y a peut-être des effets aussi avec les banques. Enfin, je sais pas comment. Je suis pas spécialiste suffisamment pour en juger, mais... Moi, ça me dérangerait pas hein, qu'il n'y ait plus du tout de cash. Mais
on peut pas faire le débat maintenant, non. Parce que bien sûr, mais bon, moi, si tu veux, si je suis pas attaché à la monnaie en tant qu'objet, enfin moi, je suis attaché à la monnaie physique, pas en tant qu'objet, pièces, billets, tout ça. Mais par contre, je suis attaché en tant que aux caractéristiques, si tu veux, et des services qu'elles apportent. C'est-à-dire c'est l'anonymat, la possibilité de faire des transactions sans avoir besoin de technologie aussi, et puis le fait que voilà, elle est accessible à tout le monde et qu'elle est maîtrisée par le pays. C'est quelque chose qui est un bien public commun, quoi, quelque part. Et donc, si tu veux, cette monnaie qui est cette monnaie nationale, c'est vrai que j'ai un peu... Enfin, moi, c'est pas parce qu'on va plus avoir de pièces et de billets, quoi. C'est parce que sinon, effectivement, on sera obligé de passer par des intermédiaires privés qui vont tout contrôler, etc. Donc c'est d'autres problématiques encore. Ouais.
Mais on en reparlera.
Oui, on en reparlera en longueur plus tard. Certainement. On va terminer cette section quand même avec quelques mots sur Microsoft, hein, puisque déjà, Internet Explorer 10, c'est fini, lui aussi.
Ouf.
Et oui, parce que Windows 7 cessera d'être maintenu en 2020. Et ce bon vieil Internet Explorer aussi, enfin, c'est une façon de parler, parce que je crois que personne n'aimait Internet Explorer aussi.
Pas que je connaisse, non, ou alors on se parle plus, mais...
c'est ça, plus personne. Personne qu'on connaisse, en tout cas, utilisait Internet Explorer 10. Note que Internet Explorer 11 continuera à vivre encore un peu, quand même. Donc, bon, c'est pourquoi pas. Et bon, on peut en profiter pour évoquer les résultats financiers de Microsoft. Hein. Il va bien. 8,6 milliards de bénéfices le dernier trimestre, dernier trimestre de 2018. Donc ça va bien, donc, sauf les revenus du PC, qui baissent quand même de 11%. Mais ça serait la faute à Intel, selon Microsoft, hein, aurait des retards sur le 10 nanomètre. Des retards qui retardent tout le monde. Et donc, heureusement qu'ils arrivent cette année, parce que ça commence à bien faire.
Eh oui.
On va finir quand même sur Microsoft en parlant de du Super Bowl, parce que t'as pas pu rater la pub Microsoft, la pub que Microsoft a choisi de montrer au Super Bowl. C'est quelque chose que tu évoquais la semaine dernière. C'est le Adaptive Controller.
C'est ça.
Donc, hein, qui permet aux enfants avec un handicap hein, de jouer comme les autres. Et c'est vrai que, bon, bah, j'étais d'accord, hein, c'est un des périphériques les plus intéressants de 2018. Et puis, bon, c'est vrai que Microsoft qui aurait pu se faire une pub pour Surface, pour la Xbox One, pour Office, pour n'importe quoi. Mais il a choisi son temps pendant le Super Bowl, hein, pour montrer ce périphérique de niche, et c'est touchant, voilà, c'est touchant, c'est malin. C'est malin en termes de com, hein, évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais je veux pas être trop cynique. Voilà, je veux pas être cynique. J'ai décidé de pas être
c'est
cynique.
C'est bien.
Voilà, parce qu'ils ont raison finalement, quand tout le monde joue, tout le monde y gagne.
Mais c'est bien, mais je l'ai toujours dit, la technologie ça doit être inclusif, ça doit pas laisser les gens sur le bord de la route. C'est la technologie pour moi, c'est ce qui fait avancer l'humanité. Faut pas que ça devienne une arme contre l'humanité. Je trouve ça génial. Après, t'en penses ce que tu veux, effectivement, cynisme ou pas, mais c'est quand même les premiers qui ont pensé à ça, qui ont vraiment réfléchi, parce que ce contrôleur, je l'ai vu, et il est vraiment très très bien fait. Vraiment, il est qualitatif. Tu vois, c'est pas un truc que... Tu vois que les mecs ont pas dit, bon tiens, on va sortir un truc pourri pour les handicapés, qu'ils arrêtent de nous faire chier, qu'ils puissent jouer. Non, ils ont vraiment réfléchi au truc. Tu sens que derrière, il y a vraiment une attention là-dessus, et ça, c'est génial.
Mais complètement, complètement. Donc je suis assez d'accord avec ça. Ils auraient pu. Ils ont fait ça sérieusement et c'est vrai que c'est tout à leur honneur, quoi. Donc il y avait donc ce Super Bowl. C'était le Super Bowl 53. Donc 53 ans déjà de Super Bowl, donc de football américain comme ça, cette grande messe annuelle où il y a de toute façon des pubs pour tous les gros blockbusters, parfois des annonces. D'ailleurs, je sais pas s'il y a d'autres blockbusters qui t'ont intéressé. Il y avait Captain Marvel, il y avait Avengers Endgame, il y avait Toy Story 4 aussi,
ouais,
je crois.
Moi,
j'étais hypé par Gun Alita.
Ouais. Battle Angel Alita, oui. Ah ouais. Ça a l'air sympa, et puis c'est James Cameron qui est derrière, finalement. C'est pas lui qui réalise, mais c'est lui qui est derrière. Donc écoute, pourquoi pas, parce que c'est vrai que les adaptations de manga, je vais pas cracher sur Nicky Larson, parce que je l'ai pas vu, mais disons que Alita me donne plus envie.
Ouais, ben moi j'aime beaucoup Gun en fait, et c'est vrai qu'Alita m'a l'air bien, quoi, m'a l'air vraiment très bien. Donc ouais, c'est ce que moi le plus, enfin, c'est pas forcément un truc spécifique au Super Bowl, mais bon, c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a marqué. De toute façon, c'est vrai que les trucs Marvel et tout ça, je suis un petit peu moins client, enfin c'est sympa, mais enfin bon, faut voir. Et j'étais surpris par Toy Story 4 un peu, je m'y attendais pas, comme quoi... Non, écoute, est-ce qu'on a terminé avec cette section?
Je pense
aussi, hein. Peut-être donc qu'il est temps de passer à la séquence en bref. On va essayer de rester bref, mais je sens qu'on va pas y arriver, mais c'est pas grave. Mais je sens qu'on va pas y arriver parce qu'évidemment, il y a une grosse séquence jeux vidéo dans cette séquence en bref, avec plein de petites news. Qu'on peut commencer, là, on peut s'en profiter pour rester un petit peu avec Microsoft, qui est en train de préparer un SDK, donc Software Development Kit, qui va être disponible sur partout, en fait, voilà, sur PC, sur Xbox, sur iOS, sur Android et même sur Switch. Et ce SDK permettra d'implémenter les fonctionnalités du Xbox Live absolument partout. Et donc ça, comme tu disais, c'est aussi inclusif. Alors, il y avait déjà des petits jeux sur Apple et sur Android qui permettaient de débloquer des achievements Xbox Live. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, et c'était surtout des titres de Microsoft. Oui. Mais là, apparemment, ça s'est ouvert à tout le monde, et donc voilà, peut-être qu'on va voir des titres un petit peu Xbox connectés au Xbox Live, un petit peu partout, c'est pas mal, pourquoi pas.
Moi, je trouve ça intelligent, moi. Je suis curieux de voir la position que Sony va prendre sur la... Bah, pas maintenant, mais sur la PS5, justement, par rapport au crossplay. Et, je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer. Parce qu'il
pas trop.
Il risque de se retrouver assez isolé si effectivement tu peux. Si tu t'imagines si tu peux jouer PC, Xbox, Switch et autres sur à des jeux en commun. Alors pas tous évidemment sur des FPS sur PC, t'as quand même l'avantage. Mais je trouve ça super intelligent de la part de Microsoft en tout cas.
Mais complètement, complètement. Alors moi, franchement, pour la PS5 ou pour la PS4, je ne me ferais pas trop d'illusions. On a eu des petites nouvelles sur la PS5, d'ailleurs. Merci pour cette transition.
Je t'en prie.
Bon, ça ne concerne absolument pas le crossplay, parce que personne n'a d'espoir, je suppose. Mais ça concerne les ressources qui sont attribuées à la PlayStation 5, puisqu'apparemment, Sony, les studios internes à Sony, sont tous, à l'heure actuelle, focalisés sur la PlayStation 5. C'est un analyste qui s'appelle Daniel Ahmad qui dit effectivement que globalement les first party Sony sont tous en train de développer sur la prochaine génération. Et, donc il y a des dev kits de PS5 qui se baladent. Il y a beaucoup de choses positives qui sont dites dessus d'ailleurs. Et au global, il y aurait donc globalement environ 18% des développeurs qui sont activement en train de travailler sur des titres de prochaine génération, donc pour la PlayStation 5. ou pour la Xbox Scarlett. Voilà, donc ça donne une idée, ça y est, elle arrive, cette prochaine génération. Je suppose que comme moi, tu es très curieux de savoir à quoi ça va ressembler. Malheureusement, ce sera pas, vraisemblablement pas pour cette année.
Ouais, ils ont presque, c'était d'ailleurs dans les news il y a pas longtemps, ils ont presque vendu 100 millions de PS4, donc je pense qu'ils ont, remporté la génération. J'aimerais bien que la PS5 soit rétrocompatible, donc peut-être. Je trouve que Microsoft a bien joué ce coup-là, en tout cas sur la Xbox One et Xbox One X, au niveau de la rétrocompatibilité. Je trouve que c'est plutôt intelligent. Et puis j'attends de voir ce que Sony aussi va faire avec son. J'aimerais bien un Game Pass de Sony, tu vois. Je trouve que le Game Pass, c'est
Game Pass, c'est-à-dire
Le Game Pass de Microsoft avec les jeux qui arrivent tous les mois, des jeux AAA qui peuvent arriver du jour au lendemain, il y a quand même un grand catalogue, la possibilité de télécharger est vraiment très très bonne. Je trouve que de ce côté-là, en tout cas, jusqu'à maintenant, je trouve qu'au niveau de l'écosystème et du réseau, je trouve que de toute façon, Microsoft est largement devant Sony et très très loin devant Nintendo qui ne sait toujours pas de faire de online, mais c'est un autre problème. Donc je me demande s'ils vont mettre les bouchées doubles ou si la PS5 sera juste une PS4 plus, tu vois. Je me demande ce qu'ils vont pouvoir apporter.
C'est une très bonne, évidemment, c'est une très bonne question. Alors tu en parlais d'ailleurs, la PlayStation 5 sera peut-être rétrocompatible. Alors c'est quelque chose qui serait pas extrêmement surprenant parce que bon, les rumeurs les plus probables, de façon la logique, hein, veut que ils continuent leur partenariat avec AMD. Et que donc ils aient du hardware basé sur du Ryzen et sur du Navy, ce qui veut dire que globalement on aura la même chose que dans la PS4, mais de manière superlative, quoi, avec des trucs plus puissants, évidemment, de nouvelle génération. Mais évidemment, comme sur un PC, puisque c'est une architecture PC, la rétrocompatibilité est quand même beaucoup moins difficile à gérer que d'une génération à l'autre, comme PS2, PS3 ou PS1, PS2.
Si, moi, ce que j'attends justement avec la PS5, en tout cas la prochaine génération, c'est justement du coup la prochaine génération de réalité virtuelle. Parce que je dois dire que j'ai été convaincu, en tout cas sur cette fin de génération, par la réalité virtuelle. Donc j'attends la suite avec vraiment, vraiment une grande impatience.
Ah bah écoute, moi aussi, de toute façon, là, depuis que je joue à Skyrim VR, il n'y a pas très longtemps que j'ai acheté le jeu, je suis convaincu pourtant. Bon, on en reparlera, oui. On aura l'occasion d'en reparler de manière spécifique, mais en tous les cas, oui, je suis moi aussi très impatient de voir un éventuel PSVR 2 sur une PS5, je pense que ça pourrait être tout à fait mortel. Et d'ailleurs, je disais, pour la rétrocompatibilité, il y a un petit, bon, ça vient d'un site espagnol qui aurait repéré un petit brevet de ce que Sony aura déposé pour faciliter la rétrocompatibilité. Alors, ce serait un truc qui permettrait à un processeur de se faire passer par un autre, hein, pour faire croire à une machine, enfin, un logiciel, pardon, qu'il fonctionne sur une autre machine. Bon, ça n'a pas l'air extrêmement compliqué ni vraiment intéressant plus que ça, mais ça pourrait être un indice, effectivement, sur le fait que, effectivement, la PS5 serait bien rétrocompatible PS4. Et PS4 Pro, bien sûr, ce qui serait effectivement très intéressant parce que je suppose qu'au passage il y aurait des petits ajustements graphiques, un petit peu comme la PS4 Pro sait le faire avec les jeux PS4, ça serait
ouais, ou comme Microsoft l'a fait sur certains jeux, genre Red Dead Redemption, oui. qui a reçu un upgrade pour One et One X qui était vraiment très 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 impressionnant quand même.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas eu l'occasion de toucher à la Xbox One, donc j'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Et c'est vrai que c'est une très très bonne initiative, ouais. Ça c'est sûr. Alors, tu parlais de VR, donc du coup, il y a aussi la VR sur PC qui continue son petit bonhomme de chemin. Alors, on a eu des petites news sur, on a eu des rumeurs, pardon, sur le prochain Oculus. Donc, on sait qu'il y aura l'Oculus Quest l'année prochaine, mais pour le PC, disons pour le successeur du Rift. On aurait le Rift S. Alors le Rift S, ce serait globalement une petite mise à jour du Rift. Alors le plus gros truc, c'est qu'il aurait un tracking inside-out, comme le Quest en fait, tout simplement, et que donc il n'aurait pas besoin de capteurs externes. C'est la grande tendance, voilà. On va pas se mentir, c'est vraiment la grande tendance, hein. Donc on peut s'attendre à ce que le Rift S ait une résolution un petit peu meilleure, et donc n'ait pas besoin de tous ces trucs externes, ce serait assez logique. D'ailleurs, on peut continuer avec HP qui, lui aussi, va introduire un nouveau casque de réalité. Donc, alors c'est pour Windows, ce que Microsoft appelle la Mixed Reality, mais qui est la réalité virtuelle, globalement. Et donc, eux, ils auraient sous le coude le Copper, donc c'est probablement son nom de code, hein, qui serait un casque donc très confortable, avec une résolution particulièrement haute, puisqu'elle serait de 2160 par 2160, donc c'est, ça paraît pas forcément énorme, mais c'est quand même 4 fois la résolution des casques de oui. base, Rift et PSVR, à peu près, hein, même si c'est en dessous. Le Pimax et les prototypes qu'on a vus par-ci par-là, c'est quand même un truc significatif. Hein. C'est un très beau casque qui probablement malheureusement sera cher, puisque c'est, je pense que HP dans un premier temps le réservera à une clientèle professionnelle. Mais donc c'est quand même bien aussi de voir que oui, voilà, petit à petit, les casques eux aussi évoluent. Et ils évoluent évidemment dans le bon sens.
Je pense que je le dis aux gens qui ne croyaient pas à la VR, si, commencez à y réfléchir sérieusement parce que c'est vraiment en train d'arriver, vraiment.
Ouais, notre avis apparemment, c'est que tous les deux, c'est un petit peu pareil, c'est que ça met du temps, mais ça vient.
Ah ouais, là c'est. Ouais.
Et c'est là pour durer.
Je pense.
Alors plus proche de nous, il y a quand même Nintendo qui a annoncé un truc majeur qui est.
Docteur Mario. Docteur Mario sur mobile.
Le retour de Docteur Mario. Mais c'est malade.
Je trouve ça génial, moi, attends. C'est un jeu qui se porte, mais complètement à être joué sur un mobile. C'est oui. génial. Je sais même pas pourquoi ils l'ont pas pensé. Ils n'y ont pas pensé avant.
Mais exactement. En fait, c'est exactement ça que je me suis demandé. C'est, mais pourquoi il n'y est pas déjà
ouais,
en fait,
c'est bizarre. Ça.
Donc oui, Dr. Mario World sera une application free-to-play. Alors, ce sera free-to-download, donc ce sera le puzzle game. Hein. On ne sait pas exactement ce que ça donnera, mais on suppose que ça partira bien entendu du gameplay original. C'est développé en partenariat avec Line, qui est une appli de messagerie japonaise, et NHN Entertainment, que je ne connais absolument pas. Ce sera sur iOS et sur Android. Et bon, bah, ce sera probablement un truc du style... Enfin, tu sais, le truc qui marche, quoi. C'est-à-dire, tu télécharges gratuitement, tu as des achats in-app. Voilà, ce sera assez annoncé quand même pour 60 pays, donc worldwide. Et on attend ça avec impatience, parce que c'est ça, sympa, Dr. Mario, c'est
mais
vrai.
En attendant le Mario Kart qui a été repoussé jusque cet été.
Alors, bizarrement, tu vois, moi, ça m'intéresse moins, parce que, je sais pas, les jeux de course sur mobile, je suis pas super fan.
Ouais, je sais pas ce que
bon,
ça va donner, mais...
Écoute, chacun.
Non, mais c'est fun, ça va être fun, à mon avis.
Bon, je pense aussi. Nintendo, donc, toujours avec cette grosse rumeur qui enfle sur une nouvelle Switch en 2019. Alors, une nouvelle Switch, oui, mais comment ? Parce que c'était ça, la grosse question. Que Nintendo sorte des versions différentes de ses consoles, c'est pas du tout une nouveauté, on va quand même pas se mentir. Sauf que là, comment, dans quelle direction ils vont aller ? Alors, la dernière rumeur fait état d'une direction qui serait celle d'une réduction de l'encombrement, de la taille, du poids, des fonctionnalités, et aussi probablement du prix. Donc de là à dire qu'ils préparent une Switch qui serait totalement portable, et qui serait pas forcément sans dock, hein, donc qui serait peut-être pas, avec laquelle il ne serait peut-être pas possible de jouer sur la télé. Possible. Très honnêtement, moi, je trouverais ça plutôt sympa. Qui c'est qui le dit ? Ça vient quand même d'un rapport Nikkei, donc en japonais, qui a été traduit et revu plusieurs fois, qui donc indiquerait que il faut savoir qu'ils voulaient quand même vendre 20 millions de Switch en 2018 et qu'ils y sont pas arrivés, même s'ils en ont vendu énormément, et que la 3DS commence évidemment à montrer des signes de faiblesse, hein, évidemment, bah, c'est on s'en doute, et que du coup, rafraîchir la Switch avec un prix d'entrée, disons, un ticket d'entrée qui serait moins élevé, ce serait pas mal. Alors moi, je te dis tout de suite, hein, je serais client d'une Switch qui serait uniquement portable. Ça
Switch à 150 balles, ouais, carrément, ouais, ça peut être cool. De toute façon, ça fait six mois, un an qu'on en entend parler, donc au bout d'un moment, c'est comme une horloge cassée, tu sais, ça donne deux fois l'heure correctement dans la journée, donc ça va fonctionner, hein, à un moment donné, ils vont sortir un truc. Mais moi, je crois plutôt, ouais, effectivement, une Switch mini, et puis peut-être un rafraîchissement d'ici un an et demi de son aîné, de la plus grande, avec peut-être moins de bordure, un plus grand écran ou un écran un peu plus qualitatif, un peu comme c'était arrivé sur la PS Vita.
Oui, sauf que sur la PS Vita, l'écran n'était pas plus
qualitatif. Non, du tout, non. Moi, je préférais le premier, d'ailleurs, aussi.
Mais par contre, la PS Vita Slim avait
perdu
du
poids, énormément de poids. Ouais.
Et puis surtout, elle avait gagné beaucoup d'autonomie, elle avait gagné une recharge USB standard. Elle avait gagné une mémoire interne, enfin, elle avait gagné quand même pas mal de trucs, mais bon, elle avait perdu son écran OLED. Bon, moi je trouvais que c'était Bon, c'était donnant-donnant, quoi. Je pense que c'était une bonne. En fait, je pense que clairement, la PS Vita Slim, c'est ce que la PS Vita aurait dû être au début, et que peut-être que vendue moins cher et avec plus d'autonomie, de la mémoire, etc., ça aurait peut-être posé moins de problèmes, mais bon, c'est un autre débat.
On parle de la PS Vita un jour.
Ah, mais la PS Vita, c'est ma console. Là. J'aime beaucoup la PS Vita. J'ai beaucoup de jeux sur PS Vita, on va en parler très longtemps. Mais on va pas parler de ça, on va parler de cet album techno qui a été donc fait sur une Sega Genesis, donc sur une Sega Mega Drive. Parce que là, alors, le rétro n'a pas de limite, hein. On avait parlé du retour du vinyle, évidemment. J'avais même vu qu'il y avait un retour de la cassette, ce qui m'avait beaucoup, quand même beaucoup étonné. Hein. Et là, il y a encore plus fort, puisqu'il y a la musique sur cartouche Mega Drive, vraiment. Alors c'est un DJ serbe qui s'appelle Remute. Alors il se fait appeler Remute, et son prochain album qui s'appelle Technoptimistic est programmé entièrement avec la puce sonore de la Mega Drive, donc uniquement du son chiptune, mais du vrai. Et c'est à tel point qu'il sera en partie, évidemment c'est pas seulement en partie, distribué sous forme de cartouche Mega Drive, et donc vous mettrez la cartouche dans votre console et la musique sera générée en temps réel, donc ce sera vraiment un programme, tout simplement. Alors bien entendu, vous pourrez aussi, ne vous inquiétez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi acheter les MP3 et les FLAC une fois que ce sera sorti, puisque ça sort le 22 mars. En attendant, les liens dans les notes de l'émission vous amèneront sur une page où vous pourrez écouter la première chanson. C'est très sympa, c'est très rigolo, je trouve. Moi j'aime bien ça.
Moi j'ai une petite. C'est voulu l'hommage à l'équipe Phaser de Wipeout sur la pochette?
Ah, écoute, je ne sais. Alors, c'est clairement, on dirait clairement un truc de Wipeout.
Ah, c'est le vaisseau Phaser. À part la couleur, c'est.
Et effectivement, alors est-ce que Remute a participé à la BO des Wipeout? J'ai pas vérifié, mais c'est pas impossible.
Ah, tu vois. Ah.
Puisque il en est pas à son coup d'essai en fait. Hein. Remute, il avait déjà sorti des trucs sur disquette à un moment. Il avait fait de la musique mode, enfin, point mode, quoi, comme à la grande époque, et il avait enregistré sur une cassette, enfin sur une disquette, pardon, c'était probablement du 720 kg, du Omega 44, et donc c'était un coup un petit peu comme ça.
Ah, je vais chercher.
Oui, bah, tu peux. En attendant, on peut parler de Spotify qui devient carrément sérieux en ce qui concerne le podcast, puisqu'il a acheté pas une, mais deux startups, startups qui concernent le podcast. Donc, d'une part, il y a Gimlet. Bon, nous, on ne connaît pas du tout, c'est une maison de prod de podcast américaine qui produit des trucs assez populaires là-bas. Donc, c'est quand même une grosse acquisition. C'est une acquisition à 200 millions de dollars, 230 millions de dollars quand même, donc c'est vraiment pas rien. Et il y a aussi une autre acquisition qui concerne Anchor. Donc Anchor, par contre, eux, ils fournissent plutôt des outils pour faire, pour créer, pour publier et monétiser des podcasts. Donc c'est pas exactement la même chose, mais voilà, c'est deux grosses acquisitions. Et c'est pas fini, puisque apparemment, en 2019, Spotify rachètera Tech Café. Non, je rigole. Mais en tout cas, Spotify rachètera pour 500 millions de dollars en tout cas, c'est lui qui l'a dit, hein, de business liés au podcast. Donc ils veulent plus ou moins globalement devenir les maîtres du podcast, détrôner iTunes. Je pense que c'est clairement leur objectif, puisqu'ils se disent que à peu près 2 ans, ils sont passés de rien du tout à principal challenger à iTunes en ce qui concerne le podcast. Et donc ça ne va pas s'arrêter là. Donc on verra bien s'ils font une offre de rachat, que bien entendu nous refuserons grâce à vous, Patreon.
Je me posais une question justement. Je me disais, je trouve que c'est une, je pense que c'est une bonne chose pour le podcast, parce que c'est vrai qu'on est quand même vachement cantonné à iTunes au niveau de la visibilité grand public. En tout cas, je trouve que c'est très limité. Et du coup, qu'il y ait quelqu'un comme Spotify qui s'y intéresse, mais je trouve que ça peut devenir vraiment quelque chose de très très bien. Voilà, je suis très content.
Ah, mais moi
vraiment.
Aussi. Oui, moi aussi, je pense effectivement que c'est bien qu'il y ait plusieurs plateformes. Et forcément, c'est toujours bien que les podcasts deviennent un média à part entière, un média important. Et voilà, nous, on est contents que le podcast devienne de plus en plus populaire, bien évidemment. Qu'est-ce qui fait la tendance en ce moment? Qu'est-ce qui fait la tendance? En ce moment, c'est les téléphones mobiles. Les téléphones mobiles, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils doivent rivaliser, les constructeurs rivalisent vraiment d'innovation et d'audace.
Oui, ils n'entendent rien.
Pour nous faire acheter leur modèle. On sent que le marché est tendu en ce moment, quand même. puisque Huawei, quand même, qui a donc annoncé évidemment sa présence au MWC de Barcelone, le 24 février, je le rappelle, et bien il a annoncé non seulement qu'il allait arriver avec un téléphone mobile pliant, mais en plus 5G. Donc le premier téléphone pliant 5G mobile. Eh oui, non mais je te dis, c'est excitant, c'est possible, je n'en peux plus.
Alors, le premier qui fait un origami avec un écran, j'achète.
Bah tu verras, à mon avis. Je suis persuadé qu'on aura des trucs intéressants donc, au MWC, donc il y a Huawei évidemment quand même, bien sûr. Mais il n'y a pas que Huawei, il y a aussi des acteurs qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais qui sont extrêmement audacieux. Il y a Energizer.
Oui.
Oui, le fabricant de piles. Energizer vend des smartphones. Première nouvelle.
Je ne savais pas, moi.
Et le plus beau, c'est qu'ils vendent des smartphones via une boîte française qui s'appelle Avenir Télécom. Décidément. Bon, jusque-là, bon, ben voilà, c'est bien. Mais alors, ce qui est fou, c'est qu'Energizer va aussi être donc au MWC, forcément. Il va arriver non pas avec un, non pas avec deux, mais avec 26 nouveaux modèles de téléphones, divisés en 4 lignes de produits, Power Max, Ultimate, Energy et Hard Case. Alors, le gros des 26 modèles, ce sera des trucs plus ou moins bon marché.
Sûrement.
Et avec des trucs un petit peu exclusifs comme des grosses batteries.
C'est pas une grosse batterie là.
J'ai
une grosse batterie sur mon téléphone là, c'est pas une grosse batterie, c'est.
Non, t'en as une grosse, mais
c'est trois fois, plus de trois fois.
Donc c'est une batterie qui fait aussi téléphone. Ça c'est quand même pratique. C'est donc le Power Max. Il y avait déjà, tu sais qu'Energizer avait déjà sorti un truc qui s'appelait le Power Max P16K Pro et qui avait quand même 16 000 mAh déjà de base.
C'est ouf.
Donc vraiment, c'est un spécialiste de la batterie. On n'en attendait pas moins d'Energizer. Mais le plus fou, c'est que Energizer va aussi sortir des téléphones borderless avec des petites caméras qui sont amovibles, tu sais, à moteur.
Ouais.
Comme on a vu chez...
Chez Vivo. Vivo qui avait sorti la caméra.
Oui, exactement. Voilà. Donc on aura cette petite caractéristique-là qui est quand même encore assez rare et qu'on pensait réservée à des modèles haut de gamme. Mais le plus beau, c'est que Energizer aussi va arriver avec un modèle de téléphone pliant. Donc des téléphones avec des téléphones géants, des téléphones avec des batteries incroyables, des téléphones avec des caméras amovibles, des téléphones pliants. Pas tout à la fois. Faut quand même pas exagérer. Mais bon, voilà, ça. Quand je te dis que le MWC va être foufou cette année...
Ils vont partir dans tous les sens, les mecs, là. Ils sont prêts à tout, quoi.
Et c'est exactement ça. On avait parlé la semaine dernière de la Hadopi, et on avait dit que, c'était pas brillant. Et là, comme fait exprès, je tombe sur une recherche qui a été faite... c'était une recherche qui a été faite sur le The Pirate Bay... Et cette recherche, elle montre que, apparemment, bizarrement, la présence d'un film sur le Pirate Bay augmentait les revenus au box-office si le film était placé après sa sortie, alors que c'était l'inverse, il était placé avant sa sortie. Donc tu me diras comment ils ont fait. Mais ils ont profité du fait que Pirate Bay n'était plus là en 2014 pour étudier l'impact, justement, puisque quand il n'est pas là et quand il est là, ça permet de faire des comparaisons. Et apparemment, il semblerait que le piratage ne soit pas si mauvais, bizarrement, même, c'est effectivement un petit peu contre-intuitif quand même, hein. Même si on sait bien que ce que dit l'industrie, qui est en gros un film piraté égale un film pas acheté, est complètement faux, il y a quand même forcément un impact, s'il y a des films que les gens piratent et que forcément ils vont pas voir. Mais il semblerait que globalement, ce soit pas si grave que ça et que même ça puisse être positif. Et bon, évidemment, l'effet qui est invoqué, c'est celui du bouche à oreille, tout simplement. Ça fait une forme de publicité pour le film. Alors bon, du coup, voilà, peut-être vive le piratage, on va savoir.
Merveilleux.
Non, mais j'ai pas le droit de dire ce genre de truc, mais je vais me faire taper dessus. Donc du coup, on enchaîne rapidement avec un truc que tout le monde attendait, un truc qui était complètement nécessaire à la vie, à la vie humaine sur Terre. J'ai noté, évidemment, c'est qu'est-ce que c'est ? Ça ne peut être que un robot tondeuse à gazon, autonome, bien entendu.
C'est génial.
Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un Roomba pour votre gazon, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que ça n'existe pas déjà ? C'est ça la vraie question. Parce que quand même, Roomba avait un brevet pour ça depuis 2008. Et ça fait depuis 2015, en fait, que iRobot était en train de forcer la FCC pour essayer de faire son robot. Et c'est finalement arrivé, le iRobot Terra va réussir à complètement vous remplacer dans votre jardin. Il va être complètement autonome, il fait un mapping intelligent de votre, donc de votre gazon. Et il fait tout seul, il respecte les plantes, il respecte les trucs, etc. Voilà, c'est une révolution qui arrivera en Allemagne d'abord, puis aux États-Unis. Pas encore de prix, mais on sait très bien que c'est quelque chose qui va se situer entre 1000 et 3000 dollars, si on en juge par les prix de la concurrence.
Ça fait, oui, ça fait cher.
Ah, ça fait cher, mais si tu as un jardin, de toute façon, il te faut une tondeuse.
Ouais, mais bon, ça va.
Tant qu'elle soit autonome. Que tondeuse. Ça dépend, hein, si c'est une belle tondeuse.
Ouais, mais là, c'est vraiment une belle tondeuse, là, quand même. Hein, c'est... Bref.
Et c'est une très belle tondeuse.
Est-ce que tu peux suivre son parcours en temps réel sur Google Maps, tu sais?
Sur Google Maps, je sais pas, mais il y a certainement une application qui vient avec où tu peux voir ce qu'elle a fait.
Regarde, chérie, il va passer près des plantes. Oh, c'est... oh là là, et toute la famille, c'est Bref.
Ben, je sais pas.
C'est le futur.
Est-ce que tu peux lui dire... Ben, c'est le futur, exactement. Exactement. Alors, je sais pas, tu es programmeur, je sais. Est-ce que tu as un langage préféré, un langage favori?
J'ai pas de langage favori, je fais beaucoup de JavaScript actuellement, mais j'ai touché un peu à tout, C++, Lisp, Pascal, donc non, j'ai plein, il y en a que j'aime pas du tout, mais il y en a la plupart, non, je suis très, très ouvert.
Alors, tu sais que tu m'as parlé du C++ et du JavaScript, c'est trois langages qui, selon une étude qui date de 2014, qui portait donc sur GitHub, il y avait une étude qui avait démontré, enfin en tout cas qui avait cru démontrer, que certains langages, dont le PHP, le C, le JavaScript, étaient plus favorables aux bugs que d'autres. Donc c'était des langages un peu pourraves, où on faisait plus d'erreurs. Objective-C aussi d'ailleurs. Python d'ailleurs aussi. Et donc ils avaient tendance à avoir un nombre de bugs moyens plus important. Alors, évidemment, ça n'a pas plu à beaucoup de monde, à tel point que des gens de l'université du Massachusetts, hein, et l'université tchèque, dont je renonce à prononcer le nom, à Prague, pardon, je suis con. Désolé, je suis fatigué. Et du coup, ils ont, eux, fait donc une sorte de contre-enquête, hein, qu'ils viennent de déposer sur l'archive. Et cette contre-enquête, elle dit qu'en fait, non, c'est pas vrai. Il n'y a aucune preuve, enfin, ils n'arrivent pas à reproduire les résultats. Et d'après ce qu'ils disent, il n'y a rien qui montre que le C++ a plus de... Enfin si, le C++ a très légèrement plus de bugs, mais bon, pour les autres, c'est quasiment pareil. Alors, en plus, il y a toujours cette histoire de causalité, de corrélation, parce que il y a les langages, si tu veux... Bon, ils n'ont pas tous le même public.
Mais voilà.
Donc il y a des langages qui sont utilisés par tout le monde, puis il y a des langages qui sont utilisés par des gens qui sont... plus dans le milieu universitaire, tu vois, et du coup, des langages qui sont massivement utilisés par tout le monde, y compris des amateurs, produire, exactement, tu vois, ça va produire des codes qui vont avoir tendance à avoir un petit peu plus de bugs que des langages qui sont presque exclusivement utilisés par des doctorants. Bah,
le JavaScript étant extrêmement permissif, effectivement, oui, tu peux faire vraiment de la merde avec, hein, très rapidement.
Exactement, alors que Haskell, par exemple, qui est un langage confidentiel utilisé par des universitaires, bon, effectivement, dans le code Haskell, il y a peut-être moins de bugs. Voilà, donc, grosso modo, la conclusion, c'est coder selon votre cœur, il n'y a pas de meilleur langage.
Il n'y a pas de mauvais langage, il n'y a que des mauvais codeurs.
Exactement. On va prendre ce mot de la fin pour passer au bonus. Est-ce que tu as un bonus?
Mais oui, mais je me retrouve des années en arrière sur ma 3DS. Il y a Est-ce que tu as vu Wargroove sortir sur Switch?
Oui, j'ai vu ça. Ça a l'air très. C'est le truc tactical.
Ouais, c'est le Advanced, oui. Wargroove de la Switch. C'est génial. C'est génial. C'est un bouffe-temps. Achetez-le. Ça vaut 17 €. C'est excellent. Pour ceux qui sont fans de stratégie comme ça, au tour à tour, et qui avaient adoré à l'époque peut-être Advanced War sur 3DS, mais jetez-vous dessus, c'est une petite perle.
C'est plus Advanced War, c'est plus Fire
Advanced
Emblem.
Advanced War. Je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir avec Fire Emblem au final. Mais je vous invite à le tester. En plus, c'est C'est vraiment génialement fait. Je veux dire, au niveau des graphismes et tout, donc c'est du pixel art, mais c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et les parties durent environ 40 à 50 minutes. Et je passe énormément de temps, malheureusement, là-dessus.
Ah, mais si c'est un bon jeu, écoute, c'est très bien. J'avais vu que c'était plutôt fantasy. Ouais. C'est une sorte d'Advance Wars fantasy, quoi.
C'est ça.
D'accord, très bien, très bien. Oui, bon, ça peut m'intéresser, ça c'est certain.
Une petite perle.
Oui, j'ai vu que ça avait l'air pas mal. Ben, moi, mon bonus, en fait, c'est pas un bonus très très neuf, hein, mais bon, moi je viens de le découvrir, ça s'appelle Face Up. Et ça m'a traumatisé.
J'ai pas pu l'essayer.
Pourquoi ? Comment ça se fait ?
Facebook ?
Non, mais on s'en fout, hein. T'as pas besoin de
compte
Facebook.
Ah bon, moi je me suis arrêté là. Moi, je vais recommencer alors.
Non, t'as pas du tout besoin de compte Facebook. Donc FaceApp, c'est quoi ? C'est pour ceux qui, donc, comme moi, il y a peu, ne connaissaient pas. C'est une application rigolote qui permet de retoucher les portraits sur son téléphone. Alors, comme beaucoup d'autres, hein, elle permet de se rendre plus beau, de changer de coiffure, etc. Mais à la différence de beaucoup d'autres, c'est pas juste un calque, cheveux, rides, lunettes, voilà. En fait, c'est plutôt un cousin de deepfake. Donc c'est un truc qui est dopé au réseau de neurones et qui, donc, il peut vous imaginer en star hollywoodienne, qui peut vous imaginer avec des cheveux, qui peut vous imaginer en vieux, ou même en sexe opposé, du sexe opposé. Et donc ma gueule a essayé FaceApp, et j'ai vu mon futur, et je m'en suis parmi. Voilà. Parce que les résultats, même pour la version gratuite, hein, parce que bon, j'utilise la version gratuite, c'est payant si on veut avoir plus de filtres, etc. C'est quand même déjà bluffant, quoi, parce que se voir à 80 balais, ça fait bizarre.
Donc dans 3 ans pour toi. Pardon.
Dans un tout petit peu plus, heureusement Dieu merci, mais ça, c'est vrai que ça choque pas mal parce que ben, c'est vraiment bien foutu, quoi. Enfin, dans mon cas en tout cas, le filtre vieux il a marché mais à fond. Je sais pas comment je dois le prendre, mais alors le filtre vieux il a marché à fond, quoi. L'algorithme il a aimé.
J'essaye en même temps.
Ah mais il faut que t'essayes ça. Et alors encore plus bizarre, enfin, peut-être, bon, je sais pas si c'est plus bizarre ou pas, mais c'est de se voir en femme. Parce que pour ça, le logiciel est quand même gentil. Hein. Il te transforme en fille avec des beaux cheveux et une peau parfaite. Du coup, je fais une fille potable, mais c'est troublant en soi quand même. Donc bref, FaceApp, c'est marrant. Alors, c'est pas du tout infaillible. Hein. Ça fait des images en basse définition. Et puis parfois, les réseaux dans des trucs quand même très très bizarres. Mais bon, c'est marrant. L'appli a été utilisée de manière aussi rigolote, hein, d'ailleurs, sur des peintures. Pour ajouter des sourires à des portraits célèbres et tout, ou ce genre de truc. Vous pouvez faire la gueule à la Joconde, par exemple. C'est ce qui est toujours rigolo. Et voilà, donc c'est pour donner une idée de ce... Ah, voilà, je crois qu'il a essayé.
J'ai essayé le filtre vieux. J'ai essayé le filtre avec des cheveux. Puisque ceux qui ne me connaissent pas, je me rase la tête régulièrement, donc... Les résultats sont d'une tristesse infinie. C'est très drôle.
Écoute, moi j'ai trouvé que ça marchait vraiment pas si mal en fait, et que le filtre vieillissant et le filtre femme aussi, enfin dans mon cas le filtre femme, était vraiment intéressant parce qu'il conserve globalement les traits du visage. Ouais, tu as toujours mon nez, toujours globalement ma gueule. Mais il vire ma barbe, il me met des beaux cheveux, et je sais pas, enfin, il se débrouille, il fait des trucs un petit peu, voilà, il agrandit un peu les yeux, il se démerde un petit peu, mais globalement, ça fait une femme avec laquelle t'as un gros, gros air de famille, et ça, c'est quand même assez rigolo, vu que j'ai pas de sœur. C'est marrant, et c'est vrai que ça illustre bien...
Mais je cartonne en meuf.
À quel point... Ah, mais tu vois, j'en ai...
Mais je me vois, je me chape dans la rue.
Ah, mais ça, mais moi aussi. Mais ça, c'est parce qu'on est beau à la base.
Non, mais c'est ça.
On a une bonne base. Donc un homme ou une femme, c'est bon. C'est tout. Donc voilà, c'est assez rigolo. Ça montre bien donc, hein, comme l'intelligence artificielle peut améliorer des trucs qu'on avait déjà, bon, ces filtres à la con, là, mais les porter à un niveau supérieur, et c'est vrai que ça peut être assez impressionnant. Donc voilà, essayez FaceApp.
Ça marche pas toujours, parce que là je viens de faire femme, donc j'étais super mignonne. J'ai fait femme 2, et je pense que j'ai eu un grave accident de voiture.
Parfois ça part en vrille.
Complètement. C'est assez. Non, c'est rigolo, pardon. Moi je croyais vraiment que ça marchait que sur Facebook. Donc voilà, à tester.
Oui, à tester.
Ou pas, pour ceux qui dépriment, ne faites pas ça. Ouais.
Alors, si vous avez une. Effectivement, si vous n'avez pas le moral, n'essayez pas le filtre.
Oui, c'est clair.
Écoute, je crois que ça conclut notre podcast. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci beaucoup à toi, Tom, de m'avoir accompagné encore une fois. Et bah écoute, je pense qu'il est temps de se dire au revoir et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tech Café.
Ciao, ciao.
Ciao.
Oh,